Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
Salut à tous, c'est parti pour deux heures de live dans l'intégral foot. Avant de laisser la main à Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli pour Bartoli Time avec un invité de prestige ce soir à 19h, John McEnroe. Un intégral foot placé sous le signe de la Ligue 1 avec notre coach Courbis National. Salut coach.
Salut les amis.
On va suivre ensemble dans quelques instants Nice-Strasbourg. C'est parti déjà entre les deux équipes, toujours 0-0. C'est la quatrième journée de Ligue 1. Les Niçois toujours en quête de leur première victoire cette saison. Et puis on débriefera les matchs de 15h. C'est la grande nouveauté cette saison dans l'intégral foot. On vous donne la parole à vous au 32-16, supporters lillois, montpelliérains, avrais, lorientais, messins et strasbourgeois. Dès la sortie du stade ou même de chez vous, d'ailleurs, appelez-nous pour venir nous donner votre avis. Et puis tous nos correspondants sur place seront aussi avec nous pour toutes les réactions. Allez, on va tout de suite aller du côté de l'Alliance Riviera. On va retrouver tout de suite Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Flora, salut Roland, bonjour à tous. Bienvenue à l'Alliance Riviera.
Ça vient de partir entre Nice et Strasbourg là. Alors, ça vient de partir il y a quelques minutes déjà quand même.
Ouais, c'est parti depuis 7 minutes en effet entre des Niçois qui, tu le disais, cherchent leur première victoire après 3 matchs nuls. Francesco Farioli qui serait bien inspiré de gagner aujourd'hui hein, parce qu'au retour de la trêve ce sera Paris et Monaco les futurs adversaires de cette OGC Nice. Et puis côté Strasbourg avec 2 victoires en 3 matchs, Patrick Vieira qui revient pour la toute première fois à l'Alliance Riviera pour essayer de jouer un mauvais tour à son ancien club. Mais il va devoir faire sans Bellegarde qui est parti le dernier jour du mercato à Wolverhampton.
Alliance Riviera, magnifique stade, mais pas beaucoup de monde quand même.
Bah, un peu moins, c'est déjà le troisième match ici. Troisième match à l'Alliance en quatre journées. Sur les deux premières, on était allé à 30 000 et quasi 30. Et là, on est redescendu à 21. Parce que, bon, on se souvient, lors du dernier match face à Lyon, il y a notamment eu quelques sifflets sur certaines séquences. C'est le cas actuellement avec Dante et Todibo qui s'échangent des ballons au ralenti. Et on attend de trouver la faille dans le bloc strasbourgeois. Ces manques de changement de rythme ont parfois agacé le public de l'Alliance. Il y avait eu quelques sifflets, mais il faut s'y habituer, nous a dit Francesco Farioli. C'est la façon, c'est sa méthode, son plan de jeu. Mais pour le moment, ça n'a pas encore convaincu le public niçois. 0-0 la 8e minute. Et il y a eu une situation sur coup franc pour les strasbourgeois qui procèdent pour le moment plutôt en contre-attaque. Un coup franc de Gilbert qui est passé assez nettement au-dessus du but gardé par Marcin Bulka. Là, ce sont les Niçois à l'attaque avec le 1 de Sofiane Diop qui va ouvrir son pied, aller chercher, non ça va passer à côté. Matsels avait plongé mais le ballon passe assez nettement à côté de sa cage. Première tentative pour les Aiglons dans cette rencontre. Coach, les Aiglons qui restent sur 3 matchs nuls, est-ce que la victoire est d'ores et déjà impérative cet après-midi?
Ben oui, évidemment. Après ça te fera 6 points, tu seras psychologiquement invaincu. Là, je regardais un petit peu la composition d'équipe et l'organisation. L'organisation, ben, elle ne change pas. Et un garçon comme Thuram fait quand même défaut. Et Strasbourg, ben, dans une espèce de 5-4-1, pas facile à prendre en défaut. Et ça, il va falloir que les Niçois se débrouillent. Parce qu'un autre match nul aujourd'hui, ça serait pas terrible.
Ouais, donne-nous les compos justement, Maxime, puisque coach les évoque. On voit un petit peu les équipes qui sont sur la pelouse là actuellement.
Avec dans le but niçois Kasper Schmeichel.
C'est le réflexe.
Marcin Bulka, et j'allais justement parler de Kasper Schmeichel qui a été libéré à la dernière journée du mercato, qui n'est plus sous contrat avec l'OGC Nice. Donc Bulka dans les buts, la défense à 4 traditionnelle depuis le début de la saison. Attal, Todibo, Dante et Melvin Barr. Un milieu à 3 avec Ndaye Chimier en sentinelle, Morgan Sanson devant lui et Hicham Boudaoui, puisque Kefren Thuram n'est pas dans le groupe, touché à la cuisse. Et puis devant Gaëtan Laborde dans le couloir droit, Sofiane Diop dans le couloir gauche et Terem Moffi en pointe. Le retour à noter sur la feuille de match de Jérémy Boga qui était absent des deux dernières rencontres, touché à la cuisse et qui fait son retour sur la feuille de match. Et puis la compo, oui coach, un petit débrief déjà.
Il y a un joueur quand même qui est, je dirais pas inquiétant, il n'y a que 4 matchs, mais préoccupant. Puisque c'est un joueur, même si tous les postes sont importants, le poste de numéro 9, je parle de Moffi. Pour le moment, nous avons un Moffi carrément absent depuis le début de cette saison. Et là, aujourd'hui, ça serait quand même une bonne idée que si Nice marque, ouais, ok, tout le monde sera content. Mais si en plus ça pouvait être Mofi, autant pour lui que pour Nice, ça serait une très bonne chose. Là, je ne le reconnais plus du tout.
Bah, il a besoin d'un déclic, hein, nous a dit Francesco Farioli, parce que dans le travail défensif de toute l'équipe, là encore, il est allé presser Matzels, c'est derrière, ça a mis un peu la pression aux Strasbourgeois qui ont concédé un corner que va frapper Morgan Sanson. Mais il lui manque ce but, en effet, à Terem Mofi pour débloquer la situation. On sait que c'est un peu comme le ketchup, hein. Après ça vient tout d'un coup, mais pour le moment il faudrait que...
C'est pas de toi ça, non?
Non, c'est pas de moi. Allez, le corner frappé par Morgan Sanson, premier poteau vers Boudaoui, ça va retomber une deuxième fois à la tête de Sissoko, et c'est Dante qui va récupérer le ballon, trouver Mofi directement dans la surface. Il est excentré dans le couloir gauche désormais, c'est bien fait de la part de Mofi, la frappe au premier poteau et l'arrêt de Matzels. Gros travail là, justement, on en parlait, de Terem Mofi, l'ancien Lorientais qui a éliminé en un contre un, il a mystifié son visage. C'était Lucas Perrin, le grand pont pour rentrer dans la surface de réparation et enchaîner avec une frappe pied gauche. Le bon arrêt, vigilance de Matzels au premier poteau et nouveau corner pour les Niçois.
Ah, il t'a entendu, hein, coach, hein. Il a un coup, mon
fils. Ouais,
il a eu peur, il a entendu gronder.
Il a les écouteurs, il écoute RMC, Terem Mofi sur la pelouse de l'Alliance. Le corner frappé, dégagé de la tête par Niamsi, la nouvelle tête de Melvin Barr qui a la retombée. Et ce seront les Niçois qui vont récupérer la possession du ballon avec une nouvelle fois dans Dante, on va en parler, coach. Il a pris un carton jaune à la 5e minute sur un duel. Bon, il y avait faute évidemment. Le jaune était peut-être un petit peu sorti rapidement, mais il va devoir vivre avec toute cette rencontre.
85 minutes plus les arrêts de jeu.
Ouais, c'est pas toujours évident. Le tempo qui est redescendu un petit peu. On peut développer la compo strasbourgeoise peut-être avec dans les buts Matzels. C'est ce système en 3-5-2 en quelque sorte.
Ou
avec
5-4.
Ouais, quasiment. Avec 3 centraux. Abakar Sylla, Gersino, Namsi et Lucas Perrin. Dans le couloir droit, Frédéric Gilbert. Dans le couloir gauche, Thomas Delaine. Et puis devant cette défense, on va suivre tout de même. Non, c'est bien couvert là par Namsi devant Matzels. 3 milieux de terrain, Ismaël Doucouré. Jesse Deminguet, Ibrahima Sissoko, un cran devant eux, Habib Diarra, et puis seul en pointe, Emmanuel Emega, l'attaquant néerlandais arrivé cet été. Cette équipe strasbourgeoise orpheline d'Habib Diallo qui est parti en Arabie Saoudite, et puis aussi depuis quelques heures de Jean Rickner, Bellegarde, qui a rejoint la première ligue.
Et par rapport à l'année dernière, tu peux rajouter Sanson, et tu peux rajouter un arrière central quand même qui fait partie des bons arrières centraux de notre championnat, c'est Djikou.
Ouais,
donc ça fait. Je ne serais pas capable de dire est-ce que l'effectif, au moment où on se parle avec le départ de Bellegarde, est supérieur ou inférieur à celui de la saison dernière.
Pas facile. C'est la grande question. Ouais, c'est la grande question. Allez, le temps, le score, Max, du côté de Nice.
La 14e minute, c'est toujours 0-0 à l'Alliance sur Rivière.
Il est 17h19 dans l'Intégral Sport. On est avec l'Intégral Foot. Je m'habitue, on est avec Coach Courbis. On va revenir sur les matchs de 15h, le débrief des matchs de Ligue 1. Coach, avec la victoire, je sais que ça t'a frustré ce match, mais la victoire de Lille face à Montpellier 1-0. Jean Baumel est avec nous d'ailleurs. Salut Jibo.
Salut Flora. Salut coach.
Bon. Salut.
Coach, il a été surpris comme moi parce qu'il ne s'attendait pas à voir Lille aussi bon par rapport à ce qu'ils ont montré jeudi soir avec la fatigue et la prolongation. On est d'accord, coach?
Oui, la prolongation. Et en plus de ça, donc, je pensais que Montpellier allait être capable de marquer un petit but, chose qui a été fait à 3 cm près.
Oui, voilà, c'est ça.
À la fin. Donc,
après,
effectivement, on pensait que Montpellier était capable de marquer au moins un but.
Mais Lille aurait dû surtout se mettre à l'abri définitivement. Ils ont eu ce petit but en début de match de Yazici sur coup franc, qui a fait un très bon match d'ailleurs, hein, l'international turc. Mais ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont tiré 15 fois, 6 tirs cadrés. Mais Montpellier, les stats sont pas mal aussi, hein. Ils ont tiré 9 fois et 5 tirs cadrés pour les joueurs de Michel Derzakarian qui était en colère parce que bon, on peut comprendre que le but refusé avec l'intervention de la VAR à la fin, c'est très frustrant pour les éroltés. Mais voilà, sur l'ensemble du match, je pense que Lille mérite sa victoire et on a vu un Lille totalement différent après la débâcle à Lorient et la triste prestation à Rijeka en Croatie jeudi soir. Bon, là ça va faire du bien, coach. Jonathan David n'a pas de match international avec le Canada,
bah
ça va faire du bien, je crois qu'il en a besoin,
il va vouloir souffler un peu. Bah oui,
je passe par rapport au match de Lorient, je crois que ok, il y a eu un énorme score, mais la boulette sur le premier but a été tout simplement catastrophique. Montpellier n'a pas eu la chance d'avoir cette boulette.
Exactement. Pourtant, des fois, franchement, quand tu regardes les relances, bah, des fois, tu te dis, ça peut le refaire. Hein. C'est vraiment risqué. Mais dès qu'ils arrivent à passer, il y avait quand même des trous. Des fois, on voyait Benjamin André qui pivotait sur lui-même avec un risque de se faire prendre le ballon. Et dès qu'il se projetait vers l'avant, il y avait de l'espace et il cherchait les ailiers. Mais franchement, celui qui nous a vraiment épaté, c'est Youssouf Yazidche. Je pense que si vraiment il continue comme ça,
aussi, hein,
ben oui, franchement, c'est la bonne surprise pour le LOS, parce que Paulo Fonseca, hein, on l'a vu hier lors de la conférence de presse quand je lui ai posé la question sur ce qu'il pensait du fait de ne pas avoir eu l'attaquant supplémentaire qu'il voulait. Bon, il n'a pas été tendre avec les dirigeants du club, ouais, en disant voilà, on va pas pouvoir faire remplir notre objectif, ouais, on peut pas lutter avec les grosses équipes.
Bon, je crois que le mercato, je sais pas, tu me dis si je me trompe dans le règlement. Le mercato est terminé, mais la possibilité de récupérer un joueur qui a pas de club,
tout à fait.
Donc ça c'est encore possible.
Oui. Non, mais voilà. Mais ce qui comprenait pas, c'est qu'on savait que Mohamed Bayo n'entrait plus dans les plans. Bon, ça faisait à peu près 3-4 mois qu'on savait qu'il fallait prendre un attaquant. Ça s'excite un petit peu la dernière journée et ça le fait pas. C'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Ouais, il dit quand j'ai les invités chez moi, il dit je vais pas faire les courses à 19h pour se voir à 20h.
Très belle analogie, effectivement. Supporter lillois à Montpellier, on vous attend évidemment au 32-16 pour venir réagir et débriefer ce match avec nous et coach Courbis. Gibo, c'est vrai que c'était important aussi pour les Lillois de réagir, tu l'as dit. Et avec 60 heures de récupération, ça s'est vu quand même sur la fin de match aussi pour les Lillois.
Ah oui, c'est un peu le match est à 15h. Il n'est pas à 21h. Donc c'est. Et plus la prolongation.
Non, mais franchement, moi j'ai été surpris qu'ils tiennent aussi longtemps dans le jeu. Il y a des joueurs. L'entrée de Bentaleb aussi, ça m'a surpris. Alors ovationné, hein, comme jamais. C'était ses premières minutes en pro avec le LOSC. C'est un Lillois de naissance, Nabil Bentaleb. Il a joué au club pendant 4 ans, de l'âge de 10 ans à 14 ans. C'était son rêve, c'était de revenir un jour ici. Et puis il y avait ce problème cardiaque, cette myocardite qui aurait pu l'en empêcher. Il est guéri. Ça peut durer longtemps, hein. Ça peut durer 6 mois. Et ça a été beaucoup plus vite que prévu. Il a eu le feu vert des médecins pour jouer, et il y avait vraiment une attente forte et beaucoup d'émotion pour le milieu de terrain ancien Angevin.
C'est bien qu'il se soit fait applaudir et je trouve que c'est une très bonne idée de le récupérer.
Ah non, mais en tout cas c'est vraiment c'est un atout dont on parlait pas trop, mais le départ de Baléba à Brighton fait que Bentaleb aura un rôle à jouer au milieu de terrain. Et puis devant, hein, Jonathan David a eu des occasions, mais voilà, il a fait 17 km. On se moquait, c'est vrai, un petit peu de lui, on était un peu dur, je trouve, même globalement avec coach et Nicolas Villas jeudi soir sur Jonathan David, parce qu'il a quand même fait 17 km sur ce match catastrophique à Rijeka. Et en fait, on se rendait pas compte, mais c'est vrai qu'il a pas mal défendu. Bon, voilà, il a besoin de souffler, pas de match international, c'est très bien pour lui. Et voilà, je pense que le LOSC arrive au bon moment là pour s'arrêter.
Tu expliques ça à certains joueurs, 17 km. Ils vont transpirer, ils vont être fatigués rien que de réfléchir à ce que ça peut être 17 km.
Allez, victoire 1-0 de Lille face à Montpellier. Merci Gibo. Tu
Merci
vas à la pêche
bon
aux réactions. Salut, tu nous dis si tu as quelqu'un au micro qu'on puisse jouer une réaction lilloise, notamment au Montpellier-Rennes. Merci Gibo. Prochain match pour les Lillois, ce sera dans 2 semaines, donc un déplacement face à Rennes. Le temps, le score toujours en Ligue 1, Maxime Tillette entre Nice et Strasbourg.
La 20e minute, 0-0 entre Niçoise et Strasbourgeois. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant qu'on écoutait Gibo.
Ah merci, bravo Maxime. Écoute, fais un petit effort.
Je suis honnête.
Quand on revient te voir, parfait. Un mot aussi sur l'arrivée de la 9e étape de la Vuelta avec Johan Bredov. Une arrivée en deux temps finalement aujourd'hui.
Exactement. Déjà le premier temps, la victoire de Lennart Kemna, le grimpeur allemand, après une étape du Giro 2020, une étape sur le Tour 2022. Et voilà, le triptyque est complet. Une étape sur la Vuelta, elle s'impose sous la tempête. Pour ça qu'il y a un deuxième temps, parce que qui dit tempête dit mesure prise par l'organisation. Comme souvent dans cette Vuelta, le temps pour le général gelé à 2 km et 50 mètres précisément de la ligne d'arrivée. Temps pour le général, et à ce jeu-là, Almeida et Vlasov ont pris quelques secondes d'avance sur Roglic, Mas, Evenepoel, Ayuso, Vingegaard. Seul Sepkus a perdu un petit peu de temps, mais pas beaucoup de secondes. Il va garder le maillot rouge, l'américain, mais victoire surtout de Lennart Kemna pour cette 9e étape.
Merci beaucoup Johan. Allez, les 17h25 dans l'intégrale foot, on revient dans quelques instants. Supporters, on vous attend au 32-16 pour venir débriefer avec nous et coach Courbis les matchs de 15h, le multiplex de la 4e journée de Ligue 1. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Florent aussi.
17h29 de retour dans l'Intégral Sport avec Coach Courbis. On suit la quatrième journée de Ligue 1, 0-0 en ce moment entre Nice et Strasbourg. On va y retourner, mais d'abord, vous le savez, ce vendredi 8 septembre, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby en France. Cette semaine, si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous allez pouvoir repartir avec votre sésame pour avoir accès à une nuit d'hôtel, le repas d'avant-match et vos places en tribune pour le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour vous inscrire, envoyez coffre par SMS au 732-16 dès que vous entendez cette alerte. Voilà, coffre au 732-16 pour participer avec nous. On vous donnera le nom d'un vainqueur tout à l'heure. On va retourner à Nice, retrouver Maxime Tilliette dans ce match entre les Niçois et Strasbourg. Comment ça se passe justement pour les Aiglons à domicile, toujours en quête de leur première victoire, on le rappelle.
Eh bien, toujours 0-0, la 25e, pause fraîcheur en ce moment. Tout le monde se rapproche des bancs. Il fait une trentaine de degrés cet après-midi à Nice où les températures sont légèrement remontées. C'était le point Evelyne Delia. Pour ce qui est du terrain, deux grosses situations pour les Niçois avec Mofi, un grand pont enchaîné d'une frappe qui était repoussée facilement au premier poteau par Matzels. Et puis là, il y a quelques secondes, un corner dévié au premier poteau par Hicham Boudaoui. C'est passé devant la cage et ça a filé en 6 mètres. C'est le petit frisson qui vient de se produire il y a quelques minutes là à la Lyon de Sereviera. À part ça, toujours 0-0. Et on a revu ces situations où les Niçois sont très statiques, s'échangent un petit peu la balle en attendant de trouver la faille dans le bloc adverse.
Merci beaucoup Max, on va revenir te voir évidemment toute l'après-midi pour ce match. Mais on a Frédéric qui est avec nous au 32-16, supporter de Montpellier après la défaite un peu plus tôt face à Lille. Salut Frédéric.
Salut à tous.
Salut Frédéric. Salut à coach.
Merci d'être avec nous Fred, j'imagine que tu es un petit peu frustré.
D'ailleurs, petite parenthèse, je remercie de m'entraîner Montpellier il y a quelques années. en Ligue 2 pour la montée en Ligue 1 en 2009, c'était super, franchement bravo.
Ah, c'est gentil.
Et je peux te dire qu'il a vibré toujours devant le match, hein. Coach, j'imagine comme toi, un peu frustrant cette défaite. Hein.
Ah, c'est sûr que Montpellier fait partie des clubs qui ne me laissent pas indifférent.
Et du coup, pour revenir sur le match de cet après-midi, le gros problème qu'on a nous, c'est les coups de pied arrêtés au niveau défensif. Il y a un gros problème sur ça. Sur les 7 buts qu'on a pris, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui sont dus à ça. Je sais pas s'ils sont les cueilleurs des fleurs ou quoi, mais il faudrait qu'ils se bougent un peu derrière. Quoi. Enfin,
ouais, tu penses
à cause de ça, on perd beaucoup de points. On a déjà perdu 8 points à cause de ça.
Bah ouais, là, ça fait deux défaites de rang. Alors, offensivement, ça marche quand même du tonnerre. Alors, du coup, sauf aujourd'hui, ça marchait super bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette attaque montpelliéraine?
Quand on regarde le match d'hier, Monaco-Lens, on peut se dire que que c'est pas qu'à Montpellier qu'il y a ces problèmes-là.
Là, moi, aujourd'hui, je pensais que ça allait payer parce que Lille a joué jeudi en Europa Conference League, en prolongation et tout.
Nous aussi. On pensait comme toi.
On a été déçus.
Avec en plus la prolongation.
Ouais, tu comptais vraiment sur la fatigue lilloise aujourd'hui, toi.
Au moins dans la deuxième partie du match.
Voilà. Ça n'a pas payé. Hein. J'espère qu'à au retour de la trêve, on va mieux travailler. On aura mieux travaillé le secteur défensif, coup de pied arrêté. Ouais. Et on sera amélioré devant aussi.
Ouais, le retour de la trêve, le calendrier, hein, ce sera un déplacement à Strasbourg, la réception de Rennes. Donc là aussi, c'est des matchs pas faciles hein, pour les Montpelliérains. Mais j'imagine que depuis l'arrivée quand même de Michel Darzacarian, tu retrouves un petit peu le sourire.
Oui.
Tu nous entends, Frédéric?
Oui, je vous entends, oui.
Ouais. L'arrivée de Darzacarian, pour toi, c'est un renouveau pour Montpellier?
Depuis qu'il est arrivé, je ne sais pas si vous êtes les mêmes stats que moi, mais je crois que c'est le premier 0-0 depuis qu'il est revenu.
Non, c'est 1-0.
En dernière, quoi.
C'est 1-0 aujourd'hui.
Depuis le premier match, on n'a pas marqué, quoi, depuis qu'il est revenu.
Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous après cette défaite de Montpellier 1-0 sur la pelouse de Lille. Merci d'avoir été avec nous au 32-16. Belle journée à toi, on se retrouve après la trêve évidemment pour retrouver Montpellier. Le temps, le score en Ligue 1 entre Nice et Strasbourg, Maxime Tilliette.
La 28e toujours 0-0 et la Populaire Sud qui scande le nom de Boulka parce qu'il a été quasi décisif. Là, le centre fort de Thomas Delaine, Emmanuel Emega, proche de couper la trajectoire au premier poteau. Il est finalement un peu trop court, hein, l'attaquant néerlandais, et Boulka qui se saisit du ballon à une main. petit frisson une nouvelle fois, mais cette fois-ci du côté des Niçois. Toujours 0-0 à la 29e entre Nice et Strasbourg.
Et c'est parti aussi en Angleterre pour le choc de cette quatrième journée entre Arsenal et Manchester United. Et c'est Johan Bredov qui est toujours là, qui suit ça pour nous. Salut Johan.
Salut Flora, salut à tous. Salut coach.
Salut Johan.
C'est parti depuis 4 minutes quasiment ici à l'Emirates. 0-0 entre Arsenal et Manchester United. La première opportunité quand même pour les Gunners qui sont ultra offensifs en ce début de match. Mais attention là avec Anthony sur le côté droit qui va défier notamment Gabriel, mais il ne va pas passer. Anthony, 0-0 donc entre Arsenal et Manchester United. 2 victoires, 1 nul pour Arsenal. Un nul très décevant lors du dernier match contre Fulham. Manchester United, c'est 2 victoires à Old Trafford et une défaite à Londres déjà sur la pelouse de Tottenham. 4 minutes de jeu, 0-0 entre Arsenal et Manchester United.
De nous la petite bonne nouvelle quand même pour côté de Manchester United, c'est la titularisation aujourd'hui de notre Français.
Bien sûr.
Il y en a un qui n'est pas là, mais l'autre est là.
Voilà, c'est Varane qui n'est pas là, qui est blessé, forfait pour cette rencontre. C'est Anthony Martial qui va débuter comme lors du dernier match en pointe, le numéro 9. On n'a pas encore trouvé Anthony Martial, mais voilà, il risque de faire des dégâts.
Attention, dans la défense, dans la surface, le centre, oh, le bon jaillissement juste devant lui d'Abakar Sylla. Nouveau centre, nouvelle tentative. Il y avait une belle incursion là pour les Niçois. Ndachimi et la fin de frappe. Il fait tomber deux Strasbourgeois avec sa feinte. Ça revient dans la surface, le crochet de Mofi, la talonnade, c'est le Brésil là avec le centre de Sanson et ça va être capté par Matsels facilement. Il y avait eu le feu là sur cette situation, les Niçois qui ont insisté mais qui n'ont pas encore trouvé la faille. 0-0 entre Nice et Strasbourg à la demi-heure.
Mais ça faille, on voit quand même des joueurs talentueux, des feintes de frappe, des crochets. Ah bon là les... ça nous plaît.
On va rester un peu avec toi Maxime pour voir comment les Niçois vont réagir dans ce match. C'est eux qui ont le ballon globalement hein.
Ah oui, très globalement même. Et les Strasbourgeois qui procèdent plutôt en contre-attaque. Melvin Barr qui essaye de se frayer un chemin là dans le couloir gauche. Il va finalement repiquer à l'intérieur avec Ndachimi et Jean-Claire Todibo qui est toujours niçois. Il aurait pu peut-être jouer ce match entre Manchester United et Arsenal mais finalement c'est toujours un aiglon. Et là la tentative de 1-2, il y a une opposition. Melvin Barr qui aurait aimé obtenir un coup de sifflet, il n'en sera rien. Et ce sont les Strasbourgeois qui ont le ballon, qui doivent faire face désormais au pressing des Niçois. Avec Ndachimi et Sanson, ils se prennent à deux avec Diop également pour aller essayer de récupérer la balle haute. Mofi, le bon travail, la récupération, le tacle de Frédéric Gilbert, ce sera une touche. Une touche pour les Niçois sous les applaudissements de Francesco Farioli qui s'est levé de sa zone technique pour applaudir ses joueurs. Il a aimé l'agressivité montrée sur les dernières minutes. C'est vrai que ça manquait un petit peu de changement de rythme la dernière fois face à Lyon. Là, en laissant peut-être un petit peu plus en mesure d'aller inquiéter ces Strasbourgeois. Ils se sont déjà créés trois belles situations.
Ouais, tu nous parlais justement de ce mercato un petit peu niçois avec Jean-Claire Todibo qui est resté. C'est la bonne nouvelle aussi pour les Niçois. Quel est le bilan de ce mercato?
Il est plutôt positif, sachant qu'il y avait trois axes majeurs. C'était garder Todibo et Thuram, c'est fait. Retoucher l'effectif avec quelques ajustements, notamment en arrière gauche avec Romain Perrault, un milieu avec une touche technique. C'est Morgan Sanson. Il y a Jérémy Boga également qui est arrivé dans le couloir gauche pour apporter un petit peu de percussion, un profil un peu différent dans les ailes. Sur ce plan-là, le coach est satisfait de son groupe et puis surtout d'avoir aussi laissé filer certains joueurs en échec ou avec des gros contrats et qui ne rendaient pas ce qui avait été investi sur eux. Je pense notamment à des Barclay et Schneiderlin qui n'ont pas été prolongés, Ramsey qui a été libéré, Schmeichel qui vient d'être libéré ce vendredi, Dolberg a été vendu à Anderlecht, Stengs au Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, on a essayé un petit peu de remettre un petit peu d'ordre dans cet effectif niçois avec un projet Ineos qu'on a dit un petit peu remanié avec un peu moins d'investissement, du moins de façon plus modérée et raisonnée. Et les Niçois qui malgré tout vont essayer d'aller chercher une place dans le top 7. La récupération haute de Morgan Sanson, il a oublié le ballon, il était passé devant Ismaël Doucouré mais derrière il avait oublié le ballon et le ballon est donc désormais dans les pieds des Strasbourgeois qui sont obligés d'allonger loin devant. Mais ce sont souvent les Niçois qui remportent ces duels, le pauvre Emmanuel Emega qui est bien seul à la retombée. Et là c'est Ndachimi qui s'est imposé. 33 minutes, toujours 0-0 entre Nice et Strasbourg, mais la domination est niçoise.
Ouais, coach, on a fait pas mal le ménage quand même hein, dans l'effectif niçois. Hein.
Absolument, donc ça fait un effectif de qualité au niveau de la quantité. Bon allez, on ne peut pas savoir exactement s'il ne manquerait pas. Maintenant tu sais qu'il y a un mercato d'ici 3 mois, c'est pas très long. Mais bon, un joueur... au milieu, un peu polyvalent, capable, tu vois, un genre de 6, capable de jouer arrière central aussi, c'est peut-être un joueur qui manque.
C'est leur Ndaye Chimiye en fait. Ndaye Chimiye qui est d'ailleurs les faveurs de Farioli par rapport à Boudaoui. C'est parce que le Burundais peut justement. Attention, le ballon qui traîne là, la reprise ratée et l'enchaînement et le poteau avec Sanson qui avait d'abord trouvé la board. Puis le ballon lui est miraculeusement revenu dessus, il a frappé, ça a tapé le poteau de Mats Sels, bien heureux. Là, il y a eu un petit cafouillage parce qu'au départ, il y a une tentative de Diop, la volée est complètement ratée, ça revient sur la board à la limite du hors-jeu qui tente sa chance, repoussée par Mats Sels. Et Mats Sels, en repoussant ce ballon, il la met parfaitement sur Morgan Sanson qui décoche aussitôt une frappe qui a frappé le poteau. Très grosse alerte une nouvelle fois sur le but de Mats Sels. Pour le moment, ils tiennent bon les Strasbourgeois, mais ça ne tient à rien.
C'est limite, c'est limite. Allez, le temps, le score, Max.
0-0 à la 35e ici à l'Allianz Riviera entre Nice et Strasbourg.
Et le temps, le score aussi en Angleterre dans le choc entre Arsenal et Manchester United, Johan Bredov.
10e minute de jeu, 0-0 entre Arsenal et Manchester United.
17h39, l'intégrale foot revient tout de suite avec Roland Courbis pour la suite de ce Nice-Strasbourg.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
De retour sur RMC avec coach Courbis. On continue de suivre Nice-Strasbourg. D'ailleurs, supporters, on vous attend au 32-16 pour venir réagir à la mi-temps avec nous. On va revenir aussi sur les matchs de 15h avec nos correspondants qui sont en train de recueillir des réactions sur tous les stades. On est du côté de Nice face à Strasbourg avec Maxime Tillet. Il y a encore eu une grosse opportunité pour les Niçois.
Ah ouais. Et l'homme de cette première mi-temps côté strasbourgeois, c'est très clairement Mats Sels, parce que là, il a remporté un face-à-face très important devant Gaëtan Laborde. Laborde qui a profité d'une tête en retrait d'Abakar Silla, pas assez appuyé, et en première intention la reprise de volée juste devant Mats Sels qui avait mis son corps en opposition, le gardien belge. Très très grosse situation là, ouais, parce que Laborde était seul face au but.
Ouais, c'est franchement, ça commence à se rapprocher quand même pour les Niçois, Maxime. Ça fait 2-3 occasions. Coach, à mon avis, il faut que les Strasbourgeois aussi soient un peu plus défensifs, soient un peu plus vaillants défensivement.
Ah,
je veux dire.
Parce que là pour le moment.
Là, c'est un peu de la chance quand même qu'ils ne soient pas déjà 1-0. Hein.
Même beaucoup.
Ah oui, oui. Et côté niçois, il y a encore ce manque d'efficacité. Alors là, les occasions sont très nettes. Hein. Ça avait moins été le cas face à Lyon où il y a eu beaucoup de tirs au but, mais pas vraiment de très très grosses situations sur la cage de Rio. Là, Mats Sels, il a dû s'employer à plusieurs reprises avec des vraies situations, mais encore ce manque d'efficacité dont on parlait notamment cette semaine en conférence de presse avec Francesco Farioli. Seulement 2 buts marqués par ces Niçois qui tirent pourtant énormément, mais qui il leur manque encore ce brin de réussite, à l'image d'un Terem Moffi qui n'a pas encore débloqué son compteur cette saison. Et les Strasbourgeois là qui essayent de ressortir tranquillement, qui vont se rassurer en gardant un peu la balle, mais le pressing niçois est bon. Récupération haute avec Boudaoui, il a vu la board, elle est un petit peu trop appuyée, cette passe de la part de Boudaoui vers la board, et la bonne sortie également de Mats Sels encore une fois qui a privé peut-être la board du ballon de l'ouverture du score. Il n'était pas en jeu en plus, Gaëtan Laborde, parti juste à la limite. Il avait fait le bon appel, la bonne trajectoire en suivant la course des défenseurs et en prenant la profondeur ensuite, et le bon jaillissement de Mats Sels qui permet aux Strasbourgeois pour l'instant de rester à 0-0. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps, il va falloir tenir bon côté Strasbourgeois.
Ouais, ça fonctionne bien en tout cas offensivement pour les Niçois, ça se trouve pas mal entre Laborde, Boudaoui aussi, ça fonctionne plutôt bien.
Oui, ça c'est sûr que le match de Nice au niveau de l'intention, de la construction, c'est pas mal, mais là il faudrait quand même une certaine précision, une certaine efficacité pour terminer ces actions. On est toujours 0-0 là.
Avec Attal qui a traversé tout le terrain en diagonale, il va centrer et c'est Silla qui s'interpose une première fois puis une deuxième fois devant Moffi puis devant Diop, et les Niçois qui vont essayer de s'installer une nouvelle fois dans les camps des Strasbourgeois. Il y a déjà eu quelques petits sifflets, hein, déjà descendu des travées de l'Allianz Riviera.
Ils sont exigeants.
Voilà, c'est ça. Mais parce que c'est vrai que sur certaines phases, c'est très arrêté, très statique entre Todibo, entre Dante. On se fait des petites passes, on attend de voir comment réagit le bloc en face.
Peut-être expliquons ça, pardon, parce que Paulo Fonseca en a parlé justement. Paulo Fonseca, n'importe quoi.
Francesco Farioli
en a parlé cette semaine en conférence de presse parce qu'il était vraiment, vraiment questionné à ce sujet, à ce plan de jeu. Il s'inspire aussi de son mentor, lui, pour en arriver là.
Oui, Roberto de Zerbi. Mais son but, en fait, il est clair, c'est de surprendre l'adversaire en changeant. changeant de rythme brutalement. Donc parfois, on a Todibo et Dante qui sont dans le rond central, voire même un peu plus bas, qui se font des passes, qui regardent, qui font des signes à leurs coéquipiers, qui bougent pas beaucoup d'ailleurs leurs coéquipiers. Et puis d'un seul coup, ça déclenche et en 2-3 passes, on essaie de surprendre la défense adverse. Mais c'est vrai que quand on paye sa place pour venir au stade et qu'on voit les joueurs se regarder, se faire des petits signes, marcher et puis se faire 2-3 passes en restant comme ça, on se dit c'est quoi ? C'est un match arrangé, ils veulent pas jouer. Et finalement, malgré tout, les Niçois sur cette première mi-temps arrivent à trouver des décalages. Des fois, ils prennent des risques. Là, il y a eu une perte de balles, mais ça a été bien couvert derrière par la défense niçoise. Mais il faut s'y habituer, nous a dit Francesco Farioli, et compte sur le soutien du public plutôt que les sifflets, même si on en a déjà entendu quelques-uns, les discrets sifflets pour le moment, parce que les Niçois sont quand même très dominateurs dans cette première période. Avec Boudaoui, il y a peut-être une nouvelle situation. Le côté droit avec le centre de la board, c'est dégagé de la tête par Gilbert, mais ça va revenir parce que Melvin Barr va armer son centre avec son pied gauche. Il est beau celui-là, dégagé de la tête par Niamsi, et cette fois-ci ce sera Habib Diarra qui va avoir le ballon. Allez, il va essayer d'envoyer loin devant la grande ouverture parfaite vers Emmanuel Emega. Le contrôle est bon, le contrôle est bon en plus d'Emega. Par contre, la défense elle est parfaite de Jean-Claire Todibo qui remporte une nouvelle fois son duel. Lui, il est impérial depuis le début de la saison.
Diarra est bon, mais celui-là aussi.
Ah, Todibo vraiment impérial, c'est le taulier de cette défense. Il aurait pu être perturbé par ce non départ cet été, par le fait également qu'il n'ait pas été appelé par Didier Deschamps, lui qui avait été convoqué en mars, puis ça n'avait pas été le cas en juin. Mais Jean-Claire Todibo qui a goûté un petit peu à l'air de Clairefontaine et qui aurait pu espérer y retourner, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Lui comme Kefren Thuram d'ailleurs, qui espère jouer l'Euro en fin de saison, et pour cela ils devront faire une très grande saison à l'OGC Nice.
Mais pas impossible du tout, parce que je les trouve très bons tous les deux.
Mais il y a une grosse concurrence, notamment au milieu et en défense, avec des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent dans d'autres championnats, plus regardés peut-être par Didier Deschamps. Donc ils savent qu'ils ne partent pas avec une longueur d'avance, mais à eux de faire leur preuve et d'emmener ce groupe niçois pour faire une grosse saison. Morgan Sanson, encore une fois au pressing. Lui, l'ancien Strasbourgeois qui a fait une demi-saison l'an passé en Alsace, prêté par Aston Villa et désormais à Nice. Par contre, derrière la passe vers Melvin Barfield directement en touche. 2 minutes 30 à jouer dans cette première période et les Niçois qui ne concrétisent pas leur très nette et très large domination 0-0.
On va en profiter pour faire un petit détour par l'Angleterre. La Première Ligue, quatrième journée, c'est le choc entre Arsenal et Manchester United. Qui est dominateur dans ce début de match, Johan Bredon?
Arsenal est très largement les Gunners, qui ont pris les choses en main. 0-0 pour l'instant, ça tient pour la défense de Manchester United à la 19e minute de jeu, mais à la 13e, il y a une occasion énorme et un raté tout aussi énorme. Kai Havertz, presque coutumier du fait, Kai Havertz qui a essayé
le fait
de
changer de maillot, ça change rien.
Non, ça change rien du tout, apparemment.
C'est vrai que c'est pas rare quand Havertz rate quelque chose.
Mais oui, c'est ça.
Il a quand même marqué en finale de Ligue des Champions, vous
avez vu. Voilà, c'est son point d'orgue dans sa carrière pour l'instant.
Bah,
pour
c'est pas
Kai
si mal.
Mais c'est pas si mal.
Il paraît qu'il se promène avec la vidéo dans la poche.
Exactement.
C'est son CV en fait.
S'il pouvait se promener avec un pied gauche aussi, ça lui ferait le plus grand bien, parce que là, il s'est retrouvé tout seul dans la surface de réparation, le ballon qui traînait mal repoussé par la défense mancunienne. Il a complètement loupé sa frappe et Nketiah n'a pu reprendre juste derrière. Donc c'est pour cela aussi que le score est toujours de 0-0 entre Arsenal et Manchester United à la 19e minute de jeu.
Allez, on retourne en Ligue 1 à vivre la fin de la première période entre Nice et Strasbourg. Un supporter, on vous attend au 32-16 à la mi-temps. On va débriefer tout ça avec vous et coach Courbis, Maxime. Et avec toujours des Niçois offensifs. Et c'est vrai qu'on voit très peu les Strasbourgeois sur quelques contre-attaques, mais c'est vraiment très léger.
70% de possession de balle pour l'OGC Nice. C'est assez clair, c'est assez net. Avec pas mal de situations et des arrêts de Matzels, qui a aussi été aidé par son poteau sur une tentative de Morgan Sanson dans cette première mi-temps également. Donc c'est pas évident pour les Strasbourgeois. On le disait, orphelin aussi d'un Jean-Ricner Bellegarde qui était omniprésent dans ce début de saison, auteur déjà de buts et deux passes décisives. Pour avoir discuté un petit peu avant le match au bord de la pelouse avec des membres de la délégation strasbourgeoise, on se dit quand même que le départ de Bellegarde serait sans doute plus préjudiciable que celui d'Habib Diallo, qui avait quand même marqué 20 buts la saison passée. Ça fait du monde en moins. Coach parlait tout à l'heure également d'Alexander G. Coup, qui était un des tauliers de cette équipe strasbourgeoise depuis quelques saisons. Et il va falloir se remettre la tête en l'endroit à la mi-temps. Il y aura 4 minutes d'ici là, 4 minutes pour tenir côté Strasbourg, 4 minutes dans cette première mi-temps pour peut-être aller chercher côté niçois l'ouverture du score, parce qu'à Nice on domine mais on ne mène pas au score, et ça reflète un petit peu les 3 premières journées où il y a eu 3 matchs nuls malgré des statistiques plutôt favorables aux niçois, mais pas au tableau d'affichage à la fin du match, avec Diop cette fois-ci qui essaye de trouver Sanson. c'est bien fait de la part de Perrin. Par contre, en revanche, la passe n'est pas bonne vers Diarra qui s'agace un petit peu. Et c'est Ndaye Chimie qui récupère avec Sanson qui est entre les lignes, qui se retourne, qui pivote une nouvelle fois, qui va trouver Melvin Bar. On va retourner vers l'arrière avec Ndaye Chimie, le numéro 55 niçois, Hicham Boudaoui, le pressing de Sissoko. Mais ce sont les Niçois encore une fois qui s'en sortent avec Ndaye Chimie et le bon impact du milieu de terrain. Il va se retourner, essayer de trouver. Il y a Sanson qui est libre au milieu. Finalement, on va repartir vers l'arrière, essayer de trouver la solution, la transversale, la classique de Dante pour aller chercher couloir droit. Attal, le crochet pour entrer dans la surface sur son pied gauche. La frappe et l'ouverture du score. Oh. Il est magnifique, signé Youssef Attal. Quel enchaînement! La transversale de Dante, le contrôle est parfait, le crochet également. Et que dire de cette frappe du pied gauche qui vient se loger dans le petit filet de Matsens. 1-0 pour le GC Nice. Et c'est logique.
Ouais, c'est logique, coach. On l'a tourné juste avant la mi-temps. En plus, ça fait
peut,
mal. Hein.
Ça peut lui faire que du bien, Attal, qui va de blessure en blessure. Ouais.
Et la joie est magnifique.
Marquer ce but, là, c'est.
Il a couru.
Ouais, nous, tout ça,
et
ouais.
Il s'est jeté, s'est rué vers le banc de touche où tous ses coéquipiers, tout le banc, le staff, tout le monde s'est levé pour l'enlacer, le féliciter, le congratuler, lui taper sur l'épaule. Quelques coéquipiers l'ont également arrosé pour le féliciter. On sait que ça n'a pas toujours été évident pour le latéral algérien, souvent blessé, notamment ces dernières saisons, mais qui, eh bien, là enchaîne. C'est sa quatrième titularisation consécutive. On sait que Lautomba avait été très bon la saison passée, mais les deux sont à 100% aujourd'hui et c'est Attal qui est malgré tout titulaire. Et là, il met une frappe magnifique. Il récompense les choix de son entraîneur et permet à Nice d'être devant, d'ouvrir le score dans le temps additionnel de cette première période.
Ouais, c'est amplement mérité, coach. On a vu la joie de tout le banc niçois parce que c'est vrai qu'il y a cette frustration aussi, comme le disait Maxime, hein, des matchs avec des matchs nuls, mais avec des performances qui étaient plutôt au rendez-vous. Et là, ça vient concrétiser aussi un petit peu tout ça, cette domination. Hein.
C'est quand même bon, attention, je me moque pas, mais je suis
si
surpris. Voir autant
tu l'annonces quand même.
Non, mais voir autant de joie pour l'ouverture du score dans un but qui n'est même pas le but de la victoire.
Bah, peut-être c'est, que ça va l'être.
C'est, ah oui, peut-être.
Peut-être qu'ils pensent que c'est le temps additionnel non, de fin de match.
C'est, sincèrement, je.
Voilà, pour le coup, c'est aussi la joie
content,
de.
Okay, mais bon,
oui. C'est aussi la joie de Youssef Attal, le fait qu'il remarque.
Non, mais je parle
de sa résilience aussi.
Je parle du banc et tout. On a l'impression d'être à la 95e minute et de mener 1-0 et de marquer le deuxième but. Comme ça, tu es sûr d'avoir. Non, c'est sûr,
imagine la joie s'ils mettent un deuxième but. Alors, coach, là.
Ah, mais deuxième
être...
but, ils font le tour de la ville.
En tout cas, allez. On peut dire que le groupe vit bien. On peut utiliser cette expression voilà. Au vu de ces images. Attention tout de même à la réaction avec les Strasbourgeois, avec le centre et la frappe de Frédéric Gilbert, totalement raté sur son pied gauche. Ça s'est envolé derrière le but de Marcin Bulka. Il y avait une belle construction avec le centre de Delaine en retrait vers Gilbert. Et là, il la rate totalement. Il y avait l'occasion de recoller tout de suite après l'ouverture du score, mais ça a été raté par les Strasbourgeois. 30 secondes à jouer dans le temps additionnel.
Ils auraient regretté l'histoire d'avoir été aussi content.
Là, ils ont été douchés aussitôt après ces moments de joie juste avant la pause. Ça va les débloquer, les rassurer aussi, ces Niçois, d'avoir ouvert le score. Mais il va falloir tenir parce qu'ils avaient mené face à Lille ici même et s'étaient fait égaliser au bout du bout du temps additionnel. Ouais. Lors de la première journée, ça avait été le cas également à Lorient où Evan Guesson avait ouvert le score et les Niçois avaient cédé en deuxième mi-temps. Face à Lille, en revanche, il n'y avait pas eu de but. Ça avait fait 0-0. Et les coups de sifflet de Monsieur Stinat qui renvoie tout le monde au vestiaire. La mi-temps et le GC Nice qui mène à 1-0 grâce à un but sublime de Youssef Attal qui a concrétisé l'ultra-domination niçoise de cette première période.
Merci beaucoup Maxime, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Supporters niçois, Strasbourgeois, on vous attend au 32-16 pour revenir sur cette première mi-temps. Nice qui mène 1-0, on reste avec coach Courbis et nous on vous attend dans quelques instants sur RMC dans l'Intégral Foot. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h58, on est de retour avec coach Courbis. On est à la mi-temps de Nice-Strasbourg. 1-0 pour les Niçois. Supporters, on vous attend au 32-16 pour venir débriefer cette première période. Mais d'abord, on file en Angleterre parce que ça bouge dans le choc entre Arsenal et Manchester United. Johan Bredov.
Il s'en passe des choses entre Arsenal et Manchester United. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, la perte de balle de Kai Havertz, la récupération des joueurs de Manchester United. Ça arrive dans les pieds de Marcus Rashford. Qui d'autre que lui pour fixer relaxer, se mettre sur son pied droit, ouvrir le score. Ramsdale, un peu trop court qui la touche, qui la met sur le poteau, mais ça rentre quand même pour Rashford. 1-0 pour Manchester United. Et dans la foulée, Arsenal qui se rue à l'attaque. Le ballon de Martinelli qui arrive dans les pieds. Le pied gauche magique de Martin Odegaard qui vient égaliser donc à la 29e minute de jeu. Odegaard, pied gauche, bah ça fait quasiment filoche à chaque fois, surtout dans la surface de réparation.
Ouais, bon, ils ont pas de chance, ils étaient pas encore en train de s'embrasser.
Et je savais que coach allait dire ça.
Ouais, ouais, ils sont pas sympas, les mecs. Et tu as vu Strasbourg, ils ont failli faire pareil. Là. Ils n'ont pas fini les embrassades, ils marquent déjà, merde.
Tu compares Strasbourg à Manchester United, c'est ça, coach?
Ouais, non, le match.
Allez, un partout donc entre Arsenal et Manchester United. Rashford pour Manchester United et Odegaard qui a répondu dans la foulée. Et on arrive à la demi-heure de jeu.
Ça, c'est un choc de Première Ligue comme on les aime. On est en Ligue 1, nous, la quatrième journée à la mi-temps de Nice. Strasbourg 1-0 pour les Niçois. Et on va tout de suite parier sur cette seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Salut Johan.
Salut Flora, salut à tous.
Est-ce que
salut,
les cotes ont bougé pour cette seconde période?
Oui, complètement. Nice est à 1,21, le nul est à 5,10, Strasbourg maintenant est à 17. J'étais pas très optimiste concernant ce match. Je proposais plutôt Nice qui gagne avec moins de 2,5 buts dans le match, plutôt que dans le mat. Je vais m'en tenir à mon pari. Je te propose le 1-0 pour les Aiglons ou le 2-0. Ça, c'est coté à 1,80 et ça me plaît bien.
Coach, quel serait ton pari pour cette seconde période?
3 scores, 2-0, 2-1, 3-1 et but de Mofi.
Ça, c'est coté à 6,75. Énorme my match. Et t'es optimiste, coach?
Bah oui.
Mais
attends. Parce qu'il est en train de regarder Arsenal Manchester, là, il se trompe de match.
Sans s'embrasser, plus de 3 secondes. Hein.
Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1-0 à la pause pour les Niçois face à Strasbourg. On a Philippe, supporter des Aiglons, qui est avec nous au 32-16. Salut Philippe.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Salut Philippe.
Bon, alors comment t'as vécu cette première période? Pour le moment, ça se passe bien pour les Niçois. J'imagine que t'as eu un petit peu peur quand même qu'il n'y ait pas ce but qui concrétise.
Surtout le début du match, ça ressemblait aux trois précédents et c'était de plus en plus inquiétant parce que de jouer à la passe derrière et de se faire des remises, c'est bien beau d'avoir une possession, mais là c'est une possession qui est vraiment plus que stérile et qui est ennuyeuse. Je veux dire, si c'est pour regarder du foot et s'ennuyer, je préfère zapper, regarder Arsenal-Manchester presque. Là, ça m'a un peu réconforté parce que ce début de saison me faisait assez peur et puis on a eu quelques occasions, mais ça ronronne. Il faut que ça se lâche un peu plus, que ça se dérite, que voilà quoi, les joueurs qu'ils aient plus de liberté et qu'ils arrêtent toujours le même stéréotype quoi. J'aimerais bien que ça soit un peu plus varié. Et bon, mais bon, c'est déjà un peu mieux parce que contre Lyon, j'avais l'impression que j'avais pris un Aspro 500 et je me suis endormi devant le match. C'était catastrophique.
Ouais, t'écoutes RMC comme ça, tu suis tous les matchs en même temps et tu manques rien. Et t'as bien raison. Et c'est vrai que dans cette première période, on a entendu un Maxime qui est au match, qui nous commande ce match pour nous, qui nous disait qu'il y a quelques sifflets justement pour le jeu proposé par les Niçois. Et j'ai l'impression que toi, t'es plutôt d'accord avec ça. Est-ce que tu comprends la philosophie, pardon, de jeu de ton nouveau coach?
J'ai du mal. Franchement, honnêtement, j'ai un peu de mal parce que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il recherche exactement. Parce que de jouer de façon concentrée, c'est justement tout l'antagonisme du football. Pour pouvoir créer des espaces, il faut qu'on écarte le jeu. Et là, on voit que la défense de Nice, qui est en possession de balle, elle est toute regroupée avec son milieu de terrain. Donc, il n'y a pas d'espace, en fait. Donc, j'arrive pas trop à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut faire s'il veut regrouper toutes les équipes pour essayer d'envoyer des passes longues dans le dos? Mais dans ces cas-là, si vous regardez les stats des attaquants, les pauvres, c'est phallémique. Hein. Ils touchent pas un ballon. Donc, ouais, pour l'instant, je vous avoue que je suis très, très, très sceptique sur sa façon d'adopter le jeu et de le voir.
Ouais, coach, peut-être toi, avec ton analyse, est-ce que tu comprends ce que veut mettre en place le coach niçois?
Oui, bien sûr, le traditionnel 4-3-3. Mais je pose une question, un seul joueur. Est-ce que Mofi est le numéro 9 d'un 4-3-3? J'ai un gros doute.
Ouais, ton avis, Philippe?
Il est plus un 4-4-2.
Absolument.
Il est plus un 4-4-2. Hein.
Absolument. Je lui vois une organisation avec un copain à côté.
Exact. Et le problème, coach, c'est que Diop, tous les matchs, ben en fait, il touche pas un ballon, il n'est jamais touché. C'est-à-dire que c'est un des seuls joueurs qu'on va dire qui a une création dans les pieds, qui techniquement est supérieur au reste de l'équipe. Et ben il regarde à chaque fois qu'il crée l'espace, on lui donne pas le ballon parce que justement on reste dans l'axe et on essaye vraiment de toucher ou Moufi ou Laborde. Parce qu'on est dans une composition plus en 4-4-2 qu'en 4-3-3 et Diop ne sert pratiquement à rien. Il est esselé sur le côté, il fait des appels, il court dans le vent.
Diop est suffisamment talentueux pour être justement le 9,5 d'une organisation en 4-2-3-1 et le voir aux côtés avec Petit, Habile et Moffi, costaud, puissant. Ce duo, je le vois très, très différent, mais quand on est différent, on est souvent complémentaire.
Coach, pour toi, ça veut dire que Laborde, il peut pas jouer avec Moffi.
Laborde, tu le laisses si tu veux côté droit. Et un gaucher côté droit, quand tu as Attal derrière toi, ce gaucher, il va rentrer vers l'intérieur et ouvrir l'extérieur pour Attal. Je pense, avec en plus la possibilité, évidemment, de se partager le boulot quand tu auras un Thuram au mieux. Mais même un Thuram, tu peux faire un 4-2-3-1 sans obligatoirement mettre 4 joueurs offensif, tu peux mettre Thuram comme a pu faire Didier Deschamps avec l'équipe de France, tu peux le mettre comme le Matuidi de l'époque. Et là, sincèrement, cette équipe de Nice et notamment Moffi pourrait être redoutable. Et si tu veux un autre quatuor, Boga qui a été récupéré, c'est un joueur qui pour moi est méconnu par rapport à son immense talent. Si tu as de droite à gauche, ben Laborde à gauche, Boga. Moffi et Diop en 9,5 là, mais sincèrement, là, je suis adversaire de Nice et j'ai mal à la tête.
Hein. Ouais, peut-être que Francesco Farioli aurait dû t'écouter, coach.
Oh non, mais je suis pas là pour faire, professeur. Je suis là pour essayer de comprendre.
On va devoir y aller, sinon on va rater la seconde période que tu vas suivre évidemment avec nous dans quelques instants. Merci beaucoup, Philippe.
Merci,
super intéressant ton analyse. On
est
passionné de foot et ça fait du bien. 18h06, l'intégral foot revient tout de suite. Toujours un parcours en Angleterre entre Arsenal et Manchester United. On revient dans quelques instants pour la seconde période de ce Nice-Strasbourg. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h10 de retour dans l'Intégral Foot sur RMC. On est avec Coach Courbis. On arrive dans quelques instants la seconde période de ce Nice-Strasbourg. 1-0 pour les Niçois. On va pas revenir aussi sur les matchs de 15h avec la victoire du Havre face à Lorient. On sera avec Christophe Lécuyer, supporter havrais et lorientais. On vous attend au 32-16. J'imagine que ce sera plus facile pour les havrais d'appeler que pour les lorientais après cette victoire 3-0 du HAC. On va retourner du côté de l'Alliance Riviera, retrouver Maxime Tillet. Ça va repartir dans cette seconde période. Est-ce qu'on prévoit du changement des deux côtés, Maxime?
Nulle part, aucun changement. Les 22 mêmes acteurs qui se préparent et qui se positionnent sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Nice qui mène 1-0 après avoir ultra dominé la première mi-temps. Pas de coaching de Francesco Farioli, c'est pas une surprise. Par contre, ça peut être un peu plus surprenant. Patrick Vieira qui décide de repartir avec le même 11 qu'au départ.
Ouais, ça va repartir, on va suivre ça évidemment avec toi. Pourtant, coach, il avait tout donné, un niveau tactique pendant la pause.
Il y a qu'un but de retard.
Ah, c'est sûr que là, ils sont qu'à un but. Ils auraient même pu revenir à 0-0, hein, parce qu'ils cèdent en toute fin de première mi-temps dans le temps additionnel sur ce but de Youssef Attal. Et c'est parti pour cette deuxième période. Coup d'envoi donné par les Niçois cette fois-ci avec Attal, justement le buteur de la première mi-temps qui permet aux Niçois d'être devant. Les Niçois qui auraient pu s'en vouloir, hein, parce qu'ils ont eu beaucoup de situations. Ils ont tardé avant d'ouvrir le score et c'est Attal qui l'a fait. En revanche, coach, j'ai l'impression que les Niçois se sont montrés plus incisifs après la pause fraîcheur. Est-ce qu'il y a eu peut-être une part de coaching de la part de Francesco Farioli qui aurait pu changer les choses?
Possible.
On peut faire ce raccourci. Le ballon récupère une nouvelle fois par les Niçois avec Moffi qui peut percuter, rendre à surface. Oh, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais ça va revenir sur lui avec le 1-2 avec Laborde, le crochet de Moffi, la bonne sortie d'Abakar Sylla. Les Niçois qui auraient pu tenter leur chance. Finalement, les défenseurs strasbourgeois qui ont pris le dessus. Il y aura un coup de sifflet, une faute sur Jessier de Minguet qui va permettre aux Alsaciens de ressortir proprement avec le ballon dans les pieds désormais de Mats Sels. La 46e, 1-0 pour Nice face à Strasbourg.
Vous entendez cette sonnerie, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter Le sésame du coffre RMC, une nuit d'hôtel, repas d'avant-match et vos places pour France-Nouvelle-Zélande. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023, c'est vendredi prochain. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. C'est maintenant que ça se joue. On aimerait tous y être à ce France-Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, bon courage pour les gagnants. Bonne chance à tous. On va retrouver tout de suite Christophe Lécuyer qui nous attend du côté du Havre. C'était les matchs de 15h avec la belle victoire du HAC face à Lorient. Salut Christophe.
Salut Flora, bonjour coach.
Salut Christophe.
La première victoire du HAC au stade Océane en Ligue 1. Et ça, on imagine que ça a dû être une fête parce que c'est pas une petite victoire quand même aujourd'hui. Hein.
Non, c'est une large victoire, effectivement. Alors qui a mis un petit peu de temps à se dessiner, hein, parce que cette rencontre, c'est Régis Lebris, le coach lorientais, qui l'a parfaitement décrite. En fait, il y a eu un temps de possession assez fort pour les Lorientais en première mi-temps, mais sans concrétiser. Il y a eu ce tournant avec la blessure de Formose Mendy à la mi-temps côté Lorientais. Et ensuite, eh bien, une mésentente qui amène le premier but et beaucoup de désorganisation. On a senti des Lorientais lâchés comme on les avait rarement vus jusqu'à présent, et des Havrais qui ont su en profiter, qui ont su faire preuve d'efficacité et de maîtrise dans cette rencontre pour effectivement signer ce premier succès du Havre ici au stade Océane en Ligue 1.
Alors, on va écouter justement le coach Havre, Lucas Elsner, après cette première victoire cette saison. Très satisfait le coach.
À partir du moment où nous avons ouvert le score, l'ascendant psychologique et l'ascendant dans le jeu étaient réels, et donc c'est une vraie satisfaction de finir cette première petite ouverture du championnat avant la trêve avec 3 points et d'une jolie manière. On a vécu une belle après-midi. On a surtout gardé notre cage inviolée, ce qui était un paramètre extrêmement important.
Ouais, ça va faire du bien, hein, Christophe, évidemment, cette première victoire de la saison, parce que quand on regarde le calendrier, alors certes, il y a la trêve qui va permettre de se reposer, mais derrière, ça va revenir très fort, hein, pour les Havrais. Hein.
Ouais, complètement, et puis ça a surtout rassuré cette équipe à Brest, qu'on avait senti timorée ici lors du premier match face à Brest au stade Océane. On a réussi à vaincre la timidité, c'est le défenseur Gauthier Lloris qui l'a dit, tandis que vous l'avez entendu, hein, Lucas Elsner, il a parlé de match référence, de match maîtrisé. Il a senti une équipe sereine aujourd'hui qui a dégagé beaucoup de maturité, une victoire qui indéniablement va amener de la confiance à cette équipe à Brest, qui en aura bien besoin dans les semaines qui vont venir, évidemment, car chaque point va compter dans l'optique du maintien.
Ouais, coach, c'est vrai que là on parle beaucoup de du Havre. En revanche, pour Lorient, c'est la première défaite de la saison et celle-là elle fait mal. On l'avait pas forcément vu venir. Hein.
Non, complètement. Et d'ailleurs, ça fait une double satisfaction. Il y a les 3 points et les 3 points contre Lorient, qui est pas facile à manœuvrer depuis le début.
Ouais, ça c'est vrai. Comment tu les as sentis les Lorientais aujourd'hui, Christophe? Décevant.
Décevant, surtout à partir du moment où ils ont concédé le premier but, hein. Régis Lebris le disait, ça se tenait jusqu'à la mi-temps avec une possession assez importante mais qui n'a pas forcément débouché sur des situations offensives extrêmement dangereuses. En tout cas, les Lorientais n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort. Ce qui est plus surprenant, et ça ressemble pas au Havre, c'est qu'effectivement ils se sont désorganisés, ils ont perdu leur bloc équipe, le score est lourd, sévère, mais pas complètement illogique, hein. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs tout à l'heure Régis Lebris. Il y a peut-être eu un petit peu d'euphorie aussi, on l'a beaucoup enflammé cette équipe lorientaise après le large succès acquis face à Lille, et le coach lorientais était le premier à l'admettre. Et eh bien au moins ça va avoir un mérite, celui de nous remettre les pieds sur terre, a déclaré tout à l'heure le coach lorientais. C'est vrai que cette deuxième mi-temps fournie par les joueurs lorientais, elle est quelque peu quand même surprenante, voire même inquiétante.
Ouais, parce que c'est vrai que finalement quand on regardait le calendrier de Lorient, coach, dans ce début de saison, le PSG, Nice, Lille, et ben finalement ils arrivent à perdre leur match contre l'adversaire le moins coté de ce début de saison. Ben oui, c'est ça. Et c'est surprenant quand même. Après, c'est la trêve qui arrive juste derrière. Ça va pas les arrêter. C'est après ce bon début de saison quand même, coach. Ils sont bien partis.
Et dans ce coin, on espère retrouver dans quelques mois les derbies Le Havre-Caen. Le scénario du match de Caen hier. Ouf, c'est pas.
Il est fou, coach. Hein.
C'est pas un scénario là qui qui te fait pas mal à la tête. Hein. Oh la vache.
Merci beaucoup Christophe, on va rappeler le calendrier, j'en parlais du Havre, en retour de la trêve ce sera un déplacement à Lyon, la réception de Clermont puis de Lille et le déplacement à Marseille. Donc là aussi il y aura beaucoup beaucoup de boulot pour les Havrais confirmer cette belle victoire aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe et merci pour les réactions aussi. On retourne du tout côté de Nice tout de suite avec une nouvelle occasion, Maxime, pour les Niçois qui sont revenus forts dans cette seconde période face à Strasbourg.
Ouais, ce sont toujours eux qui dominent, ces Niçois face à Strasbourg. Et là il y a une situation, une belle déviation en une touche de la part de Mofi pour trouver Sanson lancé dans la profondeur. Sanson qui centre en retrait, qui manque un peu de justesse parce qu'il y avait la board qui était disponible, et finalement ça a été repoussé par la défense strasbourgeoise et les Niçois qui monopolisent encore le cuir. Ça fait 5 minutes que la deuxième période a démarré et ce sont eux qui sont mieux revenus des vestiaires, un peu comme en première mi-temps. On est sur la même trajectoire et le gym qui mène toujours 1-0. avec Sofiane Diop désormais dans le couloir gauche qui va repiquer sur son pied droit, lever la tête, il n'a pas vraiment de solution, alors il va rejouer vers l'arrière avec Ndaye Chimier. On va coulisser gentiment jusqu'au buteur Youssef Attal qui va revenir vers Jean-Claire Todibo et ça va redescendre un petit peu d'un cran niveau intensité. On en a l'habitude dans les phases de construction côté niçois désormais, 1-0 pour le gym, mais les niçois sont pas obligés de se presser désormais qu'ils ont ouvert le score avec la belle ouverture pour Mofi, le bon contrôle, le bel enchaînement, le crochet, que faire désormais, il est arrêté, il est dans la surface de réparation, le bon travail défensif d'Abakar Sila qui l'écarte, qui le fait sortir de la surface de réparation, ça va aller chercher Youssef Attal qui accélère, qui essaie de repiquer au cœur du jeu, Ibrahim Sissoko qui remporte son duel, qui a refermé la porte devant lui, gros duel entre Sissoko et Ndaye Chimier, le tacle, et c'est le Burundais, le niçois qui récupère le ballon, qui va jouer vite la touche, non finalement il va arrêter, il avait été bien aidé par Francesco Farioli qui s'était mis en ramasseur de ballon quelques secondes pour essayer de jouer rapidement, finalement on va prendre son temps côté niçois, essayer de construire une nouvelle phase de possession pour le gym qui mène 1-0 et qui essaie d'aggraver le score.
Merci beaucoup Maxime, on va en profiter pour parler un petit peu du rugby, on vous en a parlé tout à l'heure, alerte coffre RMC évidemment parce que le match d'ouverture de la Coupe du Monde c'est vendredi prochain, France-Nouvelle-Zélande, une polémique en ce moment au sein du 15 de France, la présence de Bastien Chalureau appelé pour remplacer Paul Villemcé au poste de deuxième ligne pour la Coupe du Monde de rugby, évidemment du côté de certains élus d'LFI, on dénonce des propos racistes présumés survenus lors d'une bagarre à Toulouse et qui réclament donc son expulsion du groupe de Fabien Galthié. Le joueur de Montpellier a fait appel après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis en novembre 2020 pour des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Et on a réagi aujourd'hui du côté du ministère des Sports, Nicolas Pelletier. Alors c'est l'autre bouton, Nicolas, voilà. Là, on t'entend normalement.
C'est coach qui allume mon micro.
Exactement. Et si c'est pas la classe, ça, tu vois, c'est pas la classe.
Et ça, c'est fort. Donc oui, la ministre a pu s'entretenir avec Florent Green, le président de la Fédération française de rugby, et avec Raphaël Ibanez, le manager général des Bleus, qui lui a confirmé qu'un échange avait pu avoir lieu sur ce sujet entre Bastien Chalureau et le staff du 15 de France. La ministre a pu s'assurer à cette occasion que le joueur qui a fait appel de sa condamnation en première instance maintient sa version des faits et nie toujours formellement avoir tenu des propos racistes, raison pour laquelle il a procédé à cet appel dans l'attente de la décision de justice définitive. Chacun doit laisser sa place à la justice, rappelle le cabinet de la ministre, dans le respect de la présomption d'innocence. Et Amélie Oudéa-Castéra donc tient à réaffirmer qu'être sélectionné en équipe de France, c'est représenter les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité, donc se comporter en conséquence et notamment combattre toute forme de violence et de discrimination. Voilà, c'est la première réaction officielle de la ministre des Sports à cette affaire qui prend forme depuis quelques heures.
Merci beaucoup Nicolas. Ce soir, il y aura une conf du sélectionneur Fabien Galthié. Vous retrouverez évidemment tout ça dans Bartoli Time à partir de 19h avec Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli et l'invité du jour qui est John McEnroe. Un détour par l'Angleterre, la quatrième journée de la Premier League. Et c'est la mi-temps entre Arsenal et Manchester United, Johan Bredow.
Et sur son score de 1-0 entre Arsenal et Manchester United, l'ouverture du score de Marcus Rashford à la 27e frappe magnifique du pied droit. Il se l'est fait tout seul ce but, l'international anglais. Et dans la foulée, une minute plus tard à la 28e, la réponse de Martin Odegaard servie par Martinelli. Odegaard pied gauche, ça fait filoche et ça fait donc 1-0 à la pause entre Arsenal et Manchester United, même si Arsenal domine les débats.
Merci Johan, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Le temps, le score en Ligue 1 entre Nice et Strasbourg, Maxime Tilliette.
C'est reparti depuis 10 minutes dans cette deuxième période et l'OGC Nice qui mène toujours 1-0 face à Strasbourg grâce à un but de Youssef Attal.
Il est 18h21 bientôt sur RMC l'intégrale foot, revient tout de suite avec coach Courbis pour la suite de ce Nice-Strasbourg et puis on sera avec Patrick Muller pour revenir aussi sur le match nul spectaculaire entre Metz et Reims un petit peu plus tôt de partout entre les deux équipes. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Florent aussi.
18h25 de retour dans l'Intégral Foot sur RMC avec coach Courbis. On suit la quatrième journée de Ligue 1. Nice-Strasbourg en ce moment avec Maxime Tilliette et les Niçois qui sont devant et à l'attaque.
Oui, on approche de l'heure de jeu 1-0 pour le gym. Et Sofiane Diop qui va trouver lancé. Morgan Sanson, le contrôle est raté. Ça va revenir finalement vers Boudaoui. La frappe est contrée cette fois-ci à la retombée. Sila et Mofi. C'est finalement Delaine qui va remporter le deuxième duel et mettre la tête en retrait vers son gardien, Mats Sels. Strasbourgeois qui essayent de mettre un petit peu plus d'intensité, d'aller un peu plus au contact dans les duels avec de l'agressivité. Ils ont fait quelques fautes en début de seconde période, mais mis à part ça, pas vraiment de réaction de leur part. Ils n'ont pas encore essayé d'alerter Marcin Bulka qui passe une après-midi plutôt tranquille.
Ouais, coach, comment on est? Alors, t'es Patrick Vieira là, qu'est-ce que tu fais? Coach de Strasbourg.
Disons que je réfléchis quand même d'enlever un défenseur sur les 5 et de terminer avec un offensif de plus.
Ouais, donc tout pour l'offensif hein, pour toi.
Tout, un de plus.
Ce serait déjà bien pour la.
C'est pas 11 attaquants non plus.
Non, non, c'est vrai, mais est-ce que tu le vois réagir d'ailleurs, Patrick Vieira sur le banc Maxime, ou il est assez impassible?
Qui a sur le banc d'offensif?
Voilà, c'est ça aussi.
Alors, il y en a des offensifs, il y a même 4 attaquants sur le banc strasbourgeois, à savoir Dylan Bakua qui est arrivé de Strasbourg, le jeune brésilien Angelo, Lebo Motiba et Moïse Saïdion, ainsi que Kevin Gamero. Donc, ça fait vraiment, ça me fait même 5 joueurs à vocation offensive. Et derrière, on a un milieu Persic, et derrière, ce sont 2 défenseurs, Senaya et Seydouso, en plus du gardien, évidemment.
Ben, c'est pas mal quand même. Comme bam pour ça, bon.
Il y a des arguments, choix, oui. Évidemment.
On va voir si Patrick Vieira réagit aussi dans cette seconde période.
Je miserai sur Gamero.
Ah. Ouais, Gamero, l'expérimenté Kevin Gamero, du haut de ses 36 ans, qui a poursuivi l'aventure avec Strasbourg, prolongé d'une saison.
Gamero, 30-35 minutes de la fin, je trouve que
C'est la période.
Pas mal du tout.
C'est le moment, mais pour le moment, il est toujours à l'échauffement là-bas avec Lebo Motiba en train de regarder ce qui se passe sur la pelouse. L'heure de jeu, toujours 1-0 pour le gym ici à l'Allianz face à Strasbourg.
Dans l'intégral foot, on revient aussi sur les matchs du multiplex de 15h. On a parlé tout à l'heure notamment de la victoire du Havre face à Lorient 3-0. On va revenir maintenant sur le match nul spectaculaire de partout entre Metz et Reims avec Patrick Muller qui a commenté tout ça pour RMC. Salut Patrick!
Ah. Salut Flora, salut coach.
Salut Patrick.
Bon, j'imagine que tu t'es régalé avec ce match. Il y a eu beaucoup de buts et il y a eu surtout des très très jolis buts. Hein.
Ben, j'allais dire, régalade notamment par rapport à la manière dont ont été inscrits ces buts. Hein. Il y en a au moins 3 sur 4 qui sont des petits bijoux avec des frappes lointaines, des frappes en dehors de la surface de réparation. Petite tendresse peut-être pour celui de Sabali en tout début de rencontre, celui à la 6e. Et plus largement et plus globalement, il y avait de l'intensité, il y avait une volonté des deux équipes de jouer. Pour Metz, on peut être tenté de dire que c'était avec les armes du moment, hein, parce que de bouleversements ces derniers temps, notamment le départ, vous le savez sans doute, de Georges Mikotadze qui est parti à l'Ajax contre 16 millions d'euros. Évidemment, c'est une grosse perte, même si elle était prévue et si elle était anticipée. Et côté Rémois, il y a une vraie qualité de jeu pendant une heure, j'ai envie de dire, jusqu'à ce deuxième but. Superbe aussi hein, pour le FC Metz. Et derrière, on a senti des Rémois qui ont été dominateurs, qui ont eu la possession, qui ont eu les situations, mais qui n'ont jamais vraiment trouvé les solutions, alors que Metz a opposé son courage, son cœur. C'est limite du moment peut-être, mais une équipe qui est en apprentissage et qui semble en capacité peut-être encore de progresser. C'est aussi ce qui est ressorti des propos d'après-match tenus par les uns et les autres en zone mixte notamment.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'au final, vu le scénario du match, Metz menait, puis a été mené et finalement arrache le match nul. Est-ce que du côté messin, on était plutôt content de ce match nul arraché ou un petit peu déçu?
Non, content très clairement. J'ai notamment pu m'entretenir avec le capitaine Mathieu Hudol qui nous a dit c'est Reims en face, c'est un autre pédigré. Et puis voilà, cette équipe de Metz a su trouver les ressources, notamment sur cette deuxième mi-temps, parce que j'insiste encore une fois, aux alentours de l'heure de jeu, on se disait que ça allait être quand même compliqué pour Metz qui était mené dans ce match-là, 2-1 à domicile. Et ben les Messins se sont battus des joueurs qui sont sortis du lot, le retour de blessure d'Ablaye Diallo, un garçon comme Assoro qui est l'une des recrues des derniers jours du côté du FC Metz. Et puis ben voilà, 5 points en ayant joué Rennes sur la journée inaugurale, en ayant reçu Marseille. Alors victoire à Clermont lors de la précédente journée, mais en recevant Reims qui a quand même dépensé 50 millions cette année sur le marché des transferts. Franchement, côté Messin, on est plutôt rassuré par cette entame dans un calendrier quand même assez compliqué.
Merci beaucoup Patrick Muller. Match nul de partout donc entre Metz et Reims,
les
on le disait.
Les deux promus se défendent.
Exactement, et c'est vrai qu'on le disait du côté Messin plutôt content. Qu'est-ce qu'on en pense côté Rémois? On va demander à Julien, supporter du Stade de Reims qui est avec nous au 32-16. Salut Julien.
Bonjour Flora, bonjour coach.
Salut Julien.
Comment t'as vécu ce match-là? J'imagine du coup pour les Rémois c'est plus de la déception après ce match-là, non?
Sincèrement c'est une énorme déception, surtout à la fin du match. On mérite un pénalty là, Ito qui s'est accroché dans la surface. Mais bon, j'ai trouvé l'arbitre un peu léger, l'arbitrage maison, ça donnait beaucoup de cartons jaunes côté Rémois, mais clairement aucun côté Messin. Et puis c'était pas évident d'aller percer ce bloc bas. Après voilà, les Messins ont joué avec leur valeur, ils sont bien défendus. Nous on n'a pas réussi à trouver la faille. Je suis quand même assez déçu, mais même si on va pas faire la touche, un point à l'extérieur, c'est pas mal. Mais Par rapport au match que j'ai vu, je pense qu'on méritait un peu mieux, mais après, bon, bah, c'est comme ça, c'est le foot.
Un mot quand même sur le remplaçant de Folarin Balogun, hein, Oumar Diakité, qui enfin, ça y est, a débloqué son compteur avec le Stade de Reims.
Ah, ça y est, il a enfin ouvert son compteur. C'est vrai qu'il cartonnait pendant les matchs de préparation. Il avait un peu plus de mal au début de championnat, mais les 3-4 premiers matchs. Mais là, ça, j'espère que ça va lui donner de la confiance et qu'il va pouvoir en inscrire d'autres.
Ouais, petit coup d'arrêt quand même pour ton équipe après 2 victoires de rang, mais ça reste quand même un très bon début de saison pour le Stade de Reims.
Effectivement, tout à fait. Tout à fait. On est que, entre guillemets, que le Stade de Reims. On n'est pas à Marseille, Paris. Donc on fait, même si on y a eu des investissements, des très bons investissements, on reste malgré tout Reims. Hein, voilà, pas non plus enflammé. c'est plutôt encourageant.
Ouais, je pense que tu dois te régaler quand même avec cette équipe.
Tout à fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit du beau football, quoi.
Merci beaucoup, Julien.
Vraiment vers l'avant, en fait. Ça joue.
Tu te régales, voilà, tu te régales. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous au 32-16. On va retourner du côté de Nice pour ce match face à Strasbourg. Maxime Tillette, il y a eu du coaching du côté de Patrick Vieira. Il y en a maintenant du côté de Nice.
Oui, avec côté strasbourgeois, les sorties de Jesse Demingue et Habib Diarra et les entrées de Dylan Bakoua, l'ancien bordelais, et du brésilien Angelo, prêté par Chelsea. Et côté niçois, c'est Jordan Lotomba qui se prépare à rentrer. Il me semble qu'il avait un autre joueur prêt, Jérémy Boga, mais je ne le vois plus. En tout cas, Melvin Barr, lui, a eu droit à quelques soins après un duel un petit peu accroché. Il s'est fait mal au bassin. Ça devrait aller pour le latéral gauche niçois. On l'a pas évoqué, mais il y a Romain Perrault qui est revenu au club prêté par Southampton, lui qui a fini sa formation ici à Nice et qui est sur la feuille de match. Et le jeu qui reprend avec les niçois, avec Sanson. Il y a de l'espace. Il va pouvoir trouver Mofi face à Seth. Le ballon piqué, le poteau. Ça va revenir. Oh là là, Mofi, il avait le but du break, le ballon du break, et c'est le poteau qui s'est une deuxième fois. Matt Sells, il avait piqué son ballon juste devant le gardien belge. Ça va donner un corner juste derrière. Quelle situation pour les Niçois.
Il le sait, mon fils, qu'il y a des gens qui jouent.
Qui joue à quoi? Qui joue au Paris? Qui mise sur lui?
Je sais pas si c'est vraiment ce qui l'intéresse à ce moment-là. Thérèse Mofi, après là, c'est beaucoup de vraiment de réussite quand même, parce que ça se termine juste sur le poteau. Allez, il y a quand même un corner à venir pour les Niçois, Maxime.
Le corner qui va être frappé après les petites consignes de Monsieur Stina dans la surface de réparation. C'est bon, le coup de sifflet de Monsieur l'arbitre Morgan Sanson. Les trois pas d'élan vers Dante, la claquette de Matt Sells qui va ressortir le ballon. Mofi qui peut la mettre en retrait vers Attal qui va centrer au second poteau. Aboudaoui s'est dégagé de la tête par Gilbert. Ça revient vers Sanson qui arme la frappe. Finalement, le centre dégagé par Niamsi. La retombée, un duel accroché qui va récupérer le ballon pour ressortir de la mêlée. Et bien, ce sont les Niçois avec Youssef Attal. Va-t-il accélérer dans son couloir? Finalement, il va revenir vers l'arrière et obtenir un coup franc parce qu'il y a une faute là de Dylan Bakoua qui vient tout juste d'entrer. Et ça va permettre aux Niçois d'effectuer leur changement avec Jérémy Boga et Jordan Lotomba qui vont faire leurs entrées respectives d'ici quelques secondes.
Ouais, toujours 1-0 donc
bien
pour les Niçois.
De voir Boga.
Ouais, ça y est, du changement. On va voir ce que ça donne dans quelques instants pour les Niçois qui mènent toujours face à Strasbourg 1-0. Il est 18h34. Coach Courbis ne bouge pas. Vous non plus. On revient dans quelques instants sur RMC pour la suite de cette rencontre.
RMC Intégral Foot.
Florent aussi.
À 18h37, on est de retour dans l'Intégral Foot avec Coach Courbis. On suit la quatrième journée de Ligue 1 en ce moment entre Nice et Strasbourg avec Maxime Tillette. Et cette question, est-ce que les Niçois vont regretter leurs occasions manquées aussi dans cette seconde période?
Ouais, les Niçois qui avaient mené face à Lille, qui se sont fait reprendre dans les arrêts de jeu, qui avaient mené à Lorient, qui se sont fait reprendre aussi pour le moment. Ils mènent toujours 1-0 face à Strasbourg, la 72e, et temps mort. On est en pleine période de Coupe du Monde de basket, et là, littéralement, c'est une pause fraîcheur, mais ça ressemble aussi à un temps mort parce que Patrick Vieira et Francesco Farioli ont sorti la plaquette d'entraîneur pour montrer à leurs joueurs deux, trois choses, deux, trois ajustements tactiques. Et là, les Niçois qui se sont encerclés, qui communiquent, et notamment Jean-Pierre Todibo au milieu du cercle des joueurs qui encouragent ses coéquipiers. Les Strasbourgeois, eux, vont se repositionner. Le coup sifflé de Monsieur Stinat pour annoncer à tout le monde que le jeu va reprendre. Ça va nous donner un petit peu de temps additionnel. Il faut prévenir Marion Bartoli. On va empiéter un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense que John McEnroe comprendra, lui qui est l'invité de Bartoli Time ce soir. Le jeu va bientôt reprendre. Les Niçois donc qui mènent 1-0 et les Strasbourgeois qui ont fait le plein à domicile cette saison. Victoire face à Lyon 2-1. Victoire face à Strasbourg, face à Toulouse le week-end dernier 2-0. En revanche, à Monaco, ils en avaient pris 3. Défaite 3-0 Louis II. Et puis 15 jours plus tard, ici à Nice, pour le moment, on se dirige encore vers une défaite. Mais il n'y a qu'un but de retard. Et une touche à effectuer avec Frédéric Guilbert qui va la mettre longue dans la surface de réparation, mais c'est Dante qui remporte le duel. Les Niçois remportent vraiment tous les duels. Il manque quelque chose dans cette équipe strasbourgeoise, et ce ne sont pas les nouveaux entrants qui pour le moment ont changé les choses.
On va en profiter pour faire un petit détour par Lyon, parce que c'est l'affiche ce soir en Ligue 1 à 20h45 entre l'OL et le PSG. Match à suivre évidemment dans l'after avec Jean-Louis Tour depuis le Groupama Stadium. Comment l'OL va-t-il réussir à contrer la force offensive des Parisiens dans ce contexte si particulier en ce moment? C'est la grande question. On va déjà prendre la température à Lyon avec Edouard Gey. Salut Edouard.
Salut Flora, bonjour à tous.
Salut Roland. Edouard.
Raconte-nous déjà un peu le contexte en ce moment à Lyon, comment on vit cette guerre à distance entre Jean-Michel Aulas et son successeur John Textor.
Alors ce matin sur les marchés à Lyon, on commence un petit peu en sourire mais c'est vrai que depuis le début de la semaine on souriait peut-être mais un petit peu plus jaune parce qu'on ne comprenait pas un petit peu toute cette guéguerre. Alors on peut imaginer, là je vous parle un petit peu de mes retours quand je parle avec un certain nombre de personnes, même des employés de l'OL ou des membres du staff ou voilà, ou à l'académie, voilà, ce sont deux personnes qui ont un conflit sur une somme à donner, mais qu'ils règlent ça entre eux et un autre moment, hein, comme je reprendrai la formule de Thierry Gilardi, un autre regretté confrère, qui avait dit à propos de Zidane, pas toi, pas après tout ce que tu as fait, surtout pas maintenant. C'est le pas maintenant qui interpelle tout le monde, parce que fallait pas que ça soit au mois d'août, au moment où il y avait le mercato, surtout pas la fin de semaine, fin de ce mois-là. Et puis c'est un petit peu atteint aussi les employés, hein, parce qu'il y a un moment donné, on a craint au niveau de leur paye. Donc là, un petit peu la guéguerre des deux.
Et Mofi, cette fois-ci, ça finit dans le petit filet de Matsels, parfaitement lancé dans la profondeur. L'attaquant niçois qui débloque son compteur. La joie du gym et de Francesco Farioli qui a tapé un sprint pour entrer sur la pelouse, féliciter ses joueurs. Le gym fait le break et mène 2 à 0 à un quart d'heure de la fin.
Ça y est, coach.
Finalement, moffie-toi. Ben là, maintenant, il faut se moffier.
Là, c'est bon, celui-là, ils peuvent le célébrer, coach. Hein, ça y est, c'est 2-0, oui, oui. Là, pour les Niçois, ça
là,
va leur faire
bien. Là, il y a mon autorisation.
C'est validé. Et tu nous l'as dit, hein, Max, même le coach, il est rentré sur la pelouse, c'est ça?
Qu'est-ce qu'il il a été libéré, lui aussi. Il l'a vraiment vécu comme une libération, Francesco Farioli, parce qu'on le disait, les Niçois se sont fait remonter face à Lille, face à Lorient. Et là, en mettant ce but du 2-0 à un quart d'heure de la fin, il s'assure quasi une victoire. On sait qu'il peut se passer encore beaucoup de choses dans un match de foot. Mais vu la, ouais, quelle belle ouverture de Jean-Claire Todibo. On parlait de son transfert qui n'a pas eu lieu cet été. Il est toujours niçois, mais il est toujours aussi impliqué et précieux dans l'organisation du jeu de Francesco Farioli. Évidemment, la populaire sud se lève pour pousser ses hommes vers une première victoire dans ce championnat après trois matchs nuls. Le regard noir de Patrick Vieira qui a du mal à retrouver son équipe qui avait gagné deux matchs cette saison, mais le compteur ne devrait pas évoluer ce soir.
Ça fait donc 2 à 0 pour les Niçois. On était avec Edouard Gey pour nous parler de l'affiche ce soir entre Lyon et le PSG. C'est à 20h45 au Groupama Stadium. On parlait de cette guéguerre entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Et on a envie de se poser cette question. Hein. Tu le disais, pas maintenant, finalement, pour Jean-Michel Aulas. Il a du mal à décrocher quand même, non, depuis son retrait.
Oui, bah, il a du mal à décrocher parce que la rupture a été franche. Elle est difficilement digérée parce qu'en plus, d'une certaine manière, tout cela s'est fait chez lui, dans son stade, hein, parce que ce stade du Groupama Stadium, c'est celui qui l'a voulu, on va dire, avec ses tripes, avec toutes ses négociations pour le permis de construire, jusqu'au financement, jusqu'au premier coup de pelleteuse. Voilà, il y a mis beaucoup de lui, et de se faire sortir de ce stade en plus, c'est difficilement acceptable pour lui. Alors il y a eu une période de silence, un petit peu au mois de mai, jusqu'à l'hommage du 27 mai, puis après il y a eu commencé à y avoir des tweets, il commençait à y avoir des interviews dans les journaux, puis désormais c'est devant les tribunaux. Alors Jean-Michel Aulas sera au stade ce soir. Alors il sera en président de boxe, mais pas à sa place historique, on va dire. Et il fera partie des 400 personnes qui sont dans cette tribune de cette président de boxe. Et Flora, Roland, il a payé sa place.
Ouais. Ok, d'accord. Donc si tu veux, là, il y a une expression, friser le ridicule. Donc là, on ne frise pas, on l'a carrément atteint. Mais en ce qui concerne, on va pas partir dans des discussions trop longues, mais est-ce que c'est pas une erreur de Textor de mettre, appelons un chat, ce coup de pied au cul de Aulas?
Alors après, c'est toujours le problème de la poule et de l'œuf. Hein. S'il y a eu ce coup de pied aux fesses, comme tu dis, le 5 mai dernier, tout s'est finalisé dans la nuit du 7 au 8 mai avec justement la signature de ce pacte. C'est peut-être qu'il a construit un peu ce désamour au fil du temps. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très très pointilleux, mais en tout cas, cette semaine, on a eu la version de John Textor sur le début du désamour, presque début, tout cela a commencé dès le mois de décembre dernier. Donc voilà, donc c'est vrai que le timing avait surpris à l'époque, parce que même si on pensait que ça n'allait pas aller jusqu'à ces 3 ans, on pensait au moins que Jean-Michel Aulas allait rester jusqu'à ce mois de novembre, décembre de cette année, tout simplement parce qu'il y a
la fin de l'année civile.
L'année civile de 2023, voilà. Du coup, parce qu'il y a quelque chose qui va être inauguré à côté de ce stade, c'est une salle de spectacle, la LDLC Arena, qui va aussi servir pour une dizaine de matchs de l'ASVEL. Et vu que là aussi, c'est l'un de ses bébés, on s'était dit, au moins, il sera là pour couper le ruban, et ouais, après, peut-être qu'il s'en ira. On avait tous un petit peu cette idée-là, mais c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu.
Et en ce qui concerne le match de ce soir, est-ce qu'on a quand même des échos, une question, est-ce que Lyon, par prudence, pourrait jouer dans une espèce de 5-3-2?
Alors les infos que j'avais hier soir au niveau de la compo, c'était plutôt une défense à 4. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc on va pas changer ses habitudes.
Donc on a un Lyon courageux ou inconscient.
Chacun choisira son camp.
Alors après,
finalement,
ça peut peut-être changer, mais en tout cas, les infos d'hier soir, c'était ça. Et concernant Anthony Lopez, ça va être l'arbitre qui va choisir si le masque qu'il doit porter à la suite de sa blessure le 5 août dernier dans le match face à Crystal Palace, si ce masque est réglementaire. Si ce masque est réglementaire, si Eric Batelier dit OK, il pourra jouer parce qu'il a eu l'aval du neurologue, du chirurgien et l'aval sportif du staff.
Merci beaucoup, Edouard.
Un petit pronostic, allez, on s'amuse. Il va accepter l'arbitre ou pas?
Ah, je pense qu'il va accepter, non? Je sais pas.
Moi aussi.
Ouais, je pense aussi. A priori, il n'y aura pas de raison. Merci beaucoup, Edouard. On te retrouve tout à l'heure.
Salut, Doudou.
Je pars en boîte de nuit. Hein,
ouais, ils ont
lancé la sono, là.
Ils ont lancé la sono. J'y vais. Je reviendrai après. Hein.
Allez, bonne soirée, Edouard.
Amuse-toi bien, Edouard. On te retrouve tout à l'heure dès 20h dans l'after avec Jean-Louis Tour et Jeannot Rességuier, qu'on va retrouver dans quelques instants pour les infos du côté du PSG. Le temps, le score du côté de Nice face à Strasbourg, Maxime Tilliette.
10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le GC Nice qui s'est mis à l'abri avec ce but de Terem Moffi. Il mène désormais 2-0 les Niçois face à Strasbourg.
Même chose en Première Ligue pour le choc entre Arsenal et Manchester United, Johan Bredov.
Ça a repris depuis 11 minutes dans cette seconde période, toujours un but partout entre Arsenal et Manchester United. Rashford à la 27e, la réponse dans la foulée de Martin Odegaard pour les Gunners à la 28e. Il y a une grosse occasion il y a 2 minutes de cela avec la frappe d'Anthony Martial repoussée par Ramsdale, repris par Rashford, et finalement la frappe de l'Anglais contrée par la défense des Gunners. Attention, les Gunners qui sont dans la surface de réparation adverse, qui vont repasser derrière. Ça fait toujours un but partout entre Arsenal et Manchester United à la 57e minute de jeu.
18h46, l'intégral foot revient tout de suite pour la dernière ligne droite avec coach Courbis. On va vous donner les infos du PSG avant le choc face à Lyon, et puis on vivra évidemment les 10 dernières minutes de ce Nice Strasbourg 2-0 pour les Niçois. A tout de suite sur RMC.
Intégral Foot.
Flora Messi.
18h49, c'est la dernière ligne droite de l'Intégral Foot. Après, ce sera Marion Bartoli pour Bartoli Time avec Jean-Christophe Drouet, l'invité du soir. Et John McEnroe, s'il vous plaît, rien que ça. Nous, on est avec Coach Courbis, c'est notre star à nous. Et on vit la fin de ce Nice-Strasbourg avec Maxime Tilliette à l'Allianz Arena. Ou tous, l'Allianz Riviera, pardon. le petit faux pas. C'est pas la première fois qu'on a dû la faire, celle-là. Tout se passe bien pour les Niçois dans cette fin de match.
Si l'arbitre va voir, c'est que.
Non, il n'y a pas de.
Peut-être pas pénalty.
Non, c'est parce que. Alors, je vais tout vous dire, c'est qu'on a un œil en même temps sur la Première Ligue. Avec. Bon, on va y aller du coup. Désolé, il y a toujours 2-0 pour Nice face à Strasbourg. Johan Bredov, il y a un pénalty qui est en train d'être checké pour Arsenal face à Manchester United.
Ah, la passe décisive de Coach Courbis, j'en rêvais. J'en rêvais, je l'ai eu. Ouais, un pénalty peut-être. En tout cas, Anthony Taylor qui avait sifflé pénalty, qui vient de voir la VAR, vient prendre sa décision tout de suite. Il va annuler le pénalty. Il y avait eu. On pensait un contact entre Havertz et Van Bissaka, et finalement Havertz qui n'a pas été touché par Van Bissaka. Donc voilà, pas de pénalty, le score qui en restera un partout à l'heure de jeu entre Arsenal et Manchester United.
Pourtant il s'est fait inverser, hein.
Il est en forme, coach coach ce soir. Il est en forme. Maxime, c'est à toi pour cette fin de match entre Nice et Strasbourg.
Il y a eu du coaching côté Patrick Vieira pour amener un petit peu de folie dans ces 5 dernières minutes. Strasbourg qui est mené 2-0 par l'OGC Nice et l'entrée de Kevin Gamero, de également Sanjin Persic et de Marvin Senaya pour essayer d'apporter un peu plus de poids devant. On a sorti notamment Abakar Sila et on est passé à une défense à 4. Les Niçois qui malgré tout ont toujours le ballon et n'ont pas été inquiétés dans cette deuxième mi-temps. Boudaoui qui va lancer en profondeur. Mofi, y a-t-il hors jeu? Non, en tout cas il poursuit son action de face à face et l'arrêt, le duel une nouvelle fois remporté par Cesse, la tentative de l'aube. En effet, il y avait bien hors jeu, le drapeau qui s'est levé bien plus tard, ça semblait net, toujours l'Alliance Riviera l'avait vu. Également coach Courbis qui était bien présent sur la ligne du hors-jeu et en effet avec le ralenti, ah, c'est pas si clair que ça, c'est léger, mais le hors-jeu était bien là. La sortie de Gaëtan Laborde, l'entrée d'Evan Guessant et Pablo Rosario également va rentrer à la place de Hicham Boudaoui. Pour les 5 dernières minutes du temps réglementaire, on devrait avoir pas mal de temps additionnel.
Ouais, comme d'habitude avec les pauses fraîcheurs aussi du côté de Nice où il fait encore très chaud, hein. T'as quoi comme température là, l'Alliance Riviera?
Là je suis à 1,29 au niveau de Saint-Isidore d'après ma localisation, 29 degrés. C'est vrai qu'il fait un petit
à
peu chaud.
À 19h c'est pas mal, ouais, quand même. Ça fait déjà pas mal. Mon coach, on se dirige vers cette victoire niçoise méritée aujourd'hui. C'est bon, ils ont le droit. Méritée en tout cas, coach, cette première victoire qu'ils dessinent de la saison.
Il reste peut-être encore un quart d'heure. Je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, même si il reste peut-être 10 minutes à jouer, en 10 minutes on en voit des choses. Mais ça fait rien. Les Niçois, pour le moment, méritent cette victoire.
C'est surtout qu'au-delà de ça, on voit mal les Strasbourgeois qui ont été inoffensifs renverser et devenir une autre équipe là pour les 5 dernières minutes.
Ouais. Surtout que les Niçois sont toujours à l'attaque.
Oui, avec l'accélération de Boga, il a été bien repris et peut-être aller essayer de profiter de ces transitions pour les Strasbourgeois. Mais là, l'ouverture pour aller chercher Gamero, elle n'est pas précise et ça va permettre à Dante d'avoir le ballon, d'essayer de jouer sur Romain Perrault qui a fait son entrée en jeu côté niçois. Lui qui a fini sa formation, qui a passé 4 saisons ici, qui a eu du mal à s'imposer lors de son arrivée chez les pros. Il a explosé à Brest et parti à Southampton et le revoilà niçois prêté par le club anglais. Et les Strasbourgeois qui ont la balle désormais avec Gilbert, avec Doucouré. Il va falloir aussi changer un petit peu de rythme dans cette fin de match. On a l'impression qu'ils n'y croient pas vraiment, les Strasbourgeois menés 2-0 à 3 minutes de la fin du temps réglementaire.
Allez, on va en profiter pour vous parler de l'affiche qui vous attend ce soir à 20h45 en Ligue 1 entre Lyon et le PSG. Ça se passe au Groupama Stadium. Ce sera évidemment à suivre dans l'after depuis le stade avec Jean-Louis Tour, Édouard Jay et Jeannot Rességuier qui est déjà avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir Flora, salut coach.
Salut Jeannot.
Donc finalement, quand on voit ce qui se passe à Lyon en ce moment, on se dit que le PSG est un club plutôt calme ces derniers temps.
Tout va bien. Regardez le sourire de Luis Enrique.
Calme, quand même,
mais,
hein.
Oui, mais bon, là, on parle de l'actualité du moment. Le sourire de Luis Enrique qui pose avec ses 11 recrues, fiers de ses recrues, du recrutement, un effectif cohérent, des postes doublés. Coach, quand on est entraîneur, on ne peut qu'être heureux, non?
Ah ben oui.
Après un tel mercato, d'avoir réussi à accrocher au tout dernier moment Colomouani. Certes, ils n'ont pas réussi à vendre Ekitike, mais voilà, ça veut dire que cet état d'esprit, ce nouvel état d'esprit amené par Luis Enrique.
Le problème, c'est parce que tu n'as pas pu te séparer d'un joueur. Je vais te dire un truc, ce problème-là, j'aurais bien aimé les savoir et n'avoir que ça.
Oui, mais ça veut dire aussi quelque part que c'était un des objectifs. Maintenant, il suffit de se débarrasser de Verratti, de Draxler pour l'Arabie Saoudite et tout ira bien. Non, simplement.
Non, Qatar. Pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est la mode. Là, au Qatar, c'est mieux.
Tout va bien donc, et avec le nouvel état d'esprit et cette victoire face à Lens, c'est simplement de confirmer ce soir avec une victoire ici à Lyon et surtout de se rapprocher du classement, de la tête du classement et rejoindre l'Olympique de Marseille par exemple et se coller au leader de l'AS Monaco. Donc avec peut-être une équipe qui ne bougera pas parce qu'il n'a pas trop bougé non plus la structure de son équipe, Luis Enrique, depuis le 0-0 contre Lorient, le 1 partout à Toulouse et la victoire face à Lens. Peut-être un changement devant, le retour de Gonçalo Ramos à la place d'Asensio. Après, pour le reste, ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, tous les feux sont ouverts pour Paris, bon, alors que le rouge est très pratiqué à Lyon.
Le Paris Saint-Germain, c'est très bien de s'en occuper en ce qui concerne la composition d'équipe. Cette équipe de Lyon, qui logiquement a quand même des problèmes et n'est pas du niveau de Paris Saint-Germain. on sait quand même comment ils peuvent jouer au niveau déjà de la composition d'équipe, d'accord, mais surtout de l'organisation. On nous parle d'un 5-3-2.
Oui, j'ai vu ça dans Le Progrès, le journal régional d'ici, qu'ils évoquent cette possibilité de Tagliafico avec Tchaletassar, Diomandé, Mata et Koumbédi, ouais, avec Tolisso, Kakré et Maitland Knights. Ça bougera pas. Et après, de jongler au niveau offensif avec deux attaquants qui pourraient être Cherki et Nuama. Donc, écoute, oui, c'est effectivement ce que l'on a pu entendre. On l'a évoqué
après,
tout à l'heure.
On a eu Edouard tout à l'heure, hein, qui nous a parlé d'une défense à 4.
C'est ce que j'allais dire. Vous l'avez évoqué avec Edouard, et avec cette défense à 4 qui paraîtrait, on va dire, d'un point de vue structurel, plus logique, parce que partir sur une défense à 5 avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer dans ce format-là et qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble dans ce format-là, ça serait quand même prendre un risque avec les deux flèches Dembélé et Mbappé, pour ne citer que.
Ouais, d'accord, bon, les deux flèches avec une défense à 4, c'est pas simple non plus.
Ça te donne la possibilité de renforcer dans les couloirs avec des joueurs qui joueraient le jeu en défendant. Alors peut-être Cherki, peut-être Nuama, en leur demandant un petit peu plus de travail pour renforcer le milieu de terrain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envie tout simplement de réagir, les Lyonnais. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens sans la casette suspendue après le départ de Barcola, le retour de Lopez, vous en avez parlé avec Edouard.
Ouais, on a espoir que l'arbitre accepte.
Si on est parieur, et je sais que tu l'es, et moi je ne le suis pas, ça craint la fessée quand même.
Ça craint. Mais justement, je te dis, dans un 5-3-2, je verrai ça plus solide et plus prudent.
Et bien on verra ça tout à l'heure.
Un 4-3-3, je me les imagine même pas exister.
On aura la réponse tout à l'heure avec toi, Jeannot et Edouard, des 20h dans l'after. Salut, avec Jean-Louis Tour depuis le stade. À tout à l'heure, Jeannot. Allez, on est dans le temps additionnel. Tu nous avais prévu un quart d'heure, Max. Bah, t'es pas si loin que ça, finalement.
J'avais dit un quart d'heure, il restait 5 minutes dans le temps réglementaire. Ouais. Là, il y a eu 8 minutes d'affiché, mais on ira un peu plus loin parce qu'il y a déjà une minute 30 de passé où il ne s'est rien passé parce que Youssouf Ndaïchimi était au sol en train de se faire soigner. On espère pour lui qu'il puisse terminer. Du moins pour Francesco Farioli, parce qu'il a déjà fait ses 5 changements. Donc si le milieu burundais n'est pas en mesure de terminer, il devra finir à 10, mais ça a l'air d'aller pour Youssouf Ndaïchimi. On a mis un petit peu de bombe froide et ça va tenir. Le jeu qui reprend, 1 minute 40 de passer dans le temps additionnel. Dans les 8 minutes annoncées, on devrait donc aller au-delà. Le long ballon vers Terem Moffi, duel remporté par Niamsi derrière l'ouverture. On essaie de trouver en première intention Evan Guessant, ça va filer directement en touche. L'intensité qui est retombée un petit peu et puis le rythme qui a été cassé avec ses arrêts de jeu et notamment cette arrêt blessure
finalement pour bon, puisque je pense même s'il reste 6 minutes que Nice a pratiquement les 3 points, le début de Nice compte tenu des matchs nuls qui ressemblaient plutôt à des victoires qu'à des défaites, ce début de saison je le trouve pas mal du tout.
Oui, ça bascule du bon côté, c'était un peu un match charnière ce soir pour les Niçois qui on le rappelle hein, après la trêve iront jouer au stade Louis II face à une équipe de Monaco très en forme et très, très inspirée. Et puis il y aura également il y aura d'abord le Parc des Princes, donc d'abord il faudra aller se coltiner le PSG puis ensuite Monaco. Ça va être deux vrais tests hein, pour cette équipe emmenée par Francesco Farioli qui découvre la Ligue 1 et ces équipes là en font partie. Des gros cols à gravir pour l'entraîneur italien de cet OGC Nice, entraîneur qui a 34 ans. Dante, lui, va en avoir 40 en octobre. Toujours le bon de le rappeler. 3 minutes de passer dans le temps additionnel, 5 minutes encore à jouer. Et Nice qui mène 2-0 face à Strasbourg.
Et on va suivre tout ça dans quelques instants avec Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Tam qui va débuter à 19h.